Que Dieu vous bénisse, vous allez entendre le message « Unité » prêché le 11 février 1962 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Merci frère Ormond, que le Seigneur te bénisse. Bonjour mes amis, c'est bon d'être ici au tabernacle encore ce matin. Et j'étais là-bas en train d'écouter alors que j'entendais la prophétie être apportée au moyen du parler en langue avec l'interprétation. Et j'ai dit aux gens que cette pièce est pleine aussi, donc j'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas parlé à cet homme, c'était frère Higginbottom, si j'ai la bonne personne depuis longtemps. Ça fait des mois que je lui ai même serré la main. Mais c'est exactement de ça que je parle, ce qu'il a dit ce matin-là, exactement de ça que je parle. Il ne le savait pas, je ne le savais pas moi-même jusqu'à ce qu'il y a quelques instants sur quoi j'allais parler. Et c'est précisément ça, ce qu'il a dit à ce moment-là. Nous sommes donc heureux de savoir que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus et sous la protection de ses ailes. Maintenant, je vois que plusieurs sont debout. La place est pleine et bondée, et nous n'aimons simplement pas voir ça. Et dès que nous le pourrons, nous allons faire des changements ici, un plus grand tabernacle. Maintenant, j'aimerais faire un bref compte-rendu de Phoenix. J'étais ici dimanche soir dernier, et j'ai parlé sur le sujet de la communion, ou avant le service de communion. La communion n'est pas de prendre du pain. Communier signifie parler à, répondre, parler avec quelqu'un. Et maintenant, ce matin, si je peux rendre un peu trop de temps, eh bien que quelqu'un change de place avec ceux qui sont debout et ce sera apprécié, laissez-les s'asseoir un peu. Je suis préoccupé du temps dans lequel nous vivons. Je suis très, très préoccupé. Quand je vois les choses se produire et que je les vois prendre place, il y a quelque chose en moi qui se remue, et je veux juste prendre mon temps et essayer de, pour ce message de ce matin, je parle sur le sujet de l'unité, et je veux prendre mon temps et essayer de le rendre tout aussi, de l'expliquer tout aussi parfaitement que je puisse le faire, et je désire vos prières alors que vous êtes rassemblés. Et maintenant, je veux que vous preniez, si vous avez une Bible et que vous aimeriez lire avec moi, le chapitre 1 des Hébreux, premièrement, et je veux lire les trois premiers versets du premier chapitre des Hébreux, puis Genèse 1, 26 et 7, pour relier cela ensemble. Et aucun homme ne peut dire quoi que ce soit qui vaille la peine à moins que Dieu ne l'aide à le dire. Et c'est en ligne avec le message de ce matin aussi, sur l'unité des gens et Dieu. Maintenant, dans Hébreux, le premier chapitre, nous lisons ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes, et qui, dans le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et maintenant, dans Genèse, le chapitre 1, au verset 27, 26 et 27, je lis ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle.
Male and female created he them.
Maintenant, inclinons la tête juste un instant alors que nous prions. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de requêtes dans un auditoire de cette taille, alors peut-être que nous pouvons simplement lever la main vers Dieu, ceux qui ont une requête, et lui laisser faire connaître que nous avons quelque chose pour laquelle nous désirons la prière. Que Dieu l'accorde à chacun de vous. Seigneur, nous nous sommes assemblés sous le toit de ce tabernacle. Et nous sommes reconnaissants d'avoir ce toit au-dessus de nous aujourd'hui, mais nous sommes rassemblés dans un but plus grand que cela. Nous sentons que, par la promesse de Dieu, on s'est rassemblés sous les ailes du Tout-Puissant, que lui, comme une poule, couvre ses poussins. Il nous protège de tout ce dont nous désirons qu'il nous protège, qu'il se meut au-dessus de nous et nous nourrit et nous donne aujourd'hui notre pain quotidien, physiquement et spirituellement, afin que notre corps puisse avoir la force nécessaire pour marcher sur la terre et le soutien de la puissance du Saint-Esprit pour apporter la parole de Dieu à un peuple affamé. Et de repartir d'ici avec elle sur nos lèvres et dans notre cœur avec une huile d'onction si fraîche que nous pourrons parler aux autres du jour dans lequel nous vivons et de la condition du temps. Dieu, nous avons pleinement confiance en toi. Il n'y a aucun autre endroit où une personne puisse aller. On se sent comme Pierre ce jour-là quand Jésus a dit, « Allez-vous aussi partir? » Il a dit, « Seigneur, où irions-nous? » Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et c'est pourquoi on se rassemble en ton nom ce matin. Parce que toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous prions pour que cela devienne si réel pour chacun de nous aujourd'hui que notre cœur brûle en nous. Nos âmes vont être fortifiées, nos corps être guéris, nos esprits être guéris, nos âmes être renouvelées, créées à la manière que Dieu nous veut. Père, je prie que tu donnes la force à ceux qui sont debout dans la salle et le long des murs et dans le vestibule partout. Je prie que tu les fortifies. Et sachant que cela va être sur bande, cela va aller dans plusieurs nations différentes, dans les terres et les tribus de la terre. Et Dieu, nous avons entièrement confiance en toi. Donne-nous simplement la force et la parole et l'onction afin que ce soit exactement comme tu le veux pour cette heure. On s'en remet à toi maintenant, notre écoute, notre voix, notre attention, tout ce que nous sommes. On s'en remet à toi pour que tu agisses en nous. Œuvre à travers nous et manifeste ta grande présence avec nous, car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Le mot « unité » signifie « ne faire qu'un avec ». L'unité. Unité. Et maintenant, c'est tout un sujet et il mérite beaucoup plus d'attention que ce que je peux lui en donner et plus que la plupart des gens sur la terre pourraient lui en donner. Mais je voudrais vous exprimer mon opinion à ce sujet et avec ce que Dieu va nous donner. Maintenant, en cela, c'est d'enseigner la doctrine et aux frères qui pourraient entendre cette bande. J'espère que ce ne sera pas une offense, mais que cela va vous amener à vraiment considérer ceci, ou y réfléchir plutôt, que vous l'étudierez dans la prière avec soin et le pèserai sur la balance de la parole de Dieu pour voir si c'est de Dieu ou non. Car je crois que c'est ce que nous devrions toujours faire, peser les choses par la parole, parce que la parole est la seule chose qui va pouvoir demeurer. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » C'est pourquoi je la crois, et je crois qu'elle est le programme de Dieu. Je crois qu'elle est l'œuvre achevée de Dieu, écrite en parole. C'est pourquoi si quelque chose serait contraire à cette parole, ça ne pourrait pas être Dieu ou le plan de Dieu. Je crois que c'est le programme. Maintenant, l'Esprit de Dieu dans la parole fait vivre la parole, agir par elle-même. Elle fait vivre la parole comme une semence. Maintenant, le premier homme et la première femme dans le Jardin d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Tant et si bien que Dieu pouvait descendre à tout moment qu'il le désirait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Maintenant, ça, c'est l'unité parfaite. Dieu et sa création. Dieu qui parle de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et ils étaient si parfaitement en harmonie avec Dieu au point qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Tout homme et sa famille, une famille correcte, bonne, noble, une famille obéissante est un. Les uns avec les autres, toute famille. Et s'il y a quelque chose dans la famille qui les sépare, alors ce n'est pas bien. La famille est brisée quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants, tous en harmonie. Quand vous voyez cela, vous allez voir un beau tableau. C'est le dessein de Dieu. Et son but en tant que Père suprême était d'être un avec sa famille, la famille terrestre, Adam et Ève. Et la seule façon qu'il pouvait être un avec la famille ou avec Dieu, c'était parce que la nature de Dieu était en eux. Donc, cela faisait qu'ils avaient la nature de Dieu en eux. Puis, avec les uns, avec les autres, et Dieu, ils deviennent tous un. N'est-ce pas un beau tableau? Dieu, dans sa famille, Père de tous, suprême, pas de mort, ni de chagrin, ni de peine, ni rien, juste de la joie inexprimable. Ne jamais être malade, ne jamais avoir de chagrin, simplement un avec Dieu. Quel tableau! Parce que la nature même de Dieu était dans ces gens. Et donc, ce qu'ils faisaient, ils sont restés parfaitement en ligne avec Dieu et Dieu avec eux les a fait un. Maintenant, Jésus a prié dans Jean, au chapitre 17, au verset 11, pour vous qui notez ces textes de l'école du dimanche, j'en ai beaucoup ce matin. Jean 17, 11, Jésus a prié pour que l'Église et lui soient un, comme lui et le Père sont un. Que l'Église, nous, en tant que membres du corps de Christ, soyons un ensemble, tout comme lui et le Père sont un. Et en ce jour-là, nous saurions qu'il était dans le Père en lui et lui en nous, qu'ensemble, nous étions un. Quelle union ou unité ce serait de voir Dieu dans son Église au point que chaque membre soit parfaitement en harmonie les uns avec les autres et avec Dieu. C'est pour cette Église que Jésus vient. C'est là que sa prière sera exaucée, que nous soyons un. Et c'est la seule base de communion que Dieu n'ait jamais établie pour lui-même et son Église. L'unité de lui-même dans les gens. C'est la seule base de communion. Et la seule façon pour vous d'avoir cette base est par une union, d'être unis avec lui pour toujours. Tout comme quand vous vous unissez avec votre mari. La femme qui s'unit à son mari, c'est un vœu jusqu'à la mort. Maintenant, quand vous vous unissez à Dieu, c'est la même chose que l'Église unie à Christ, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et alors, si vous ne péchez jamais ou ne faites rien de mal, vous serez éternellement unis avec Dieu. Et seule la mort peut vous séparer de Dieu, et non pas la mort physique, mais le péché de la mort. Le péché, c'est la mort, et cela vous sépare de Dieu. Ainsi, d'être unis à lui dans l'esprit de sa puissance, c'est la vie éternelle. Vous êtes éternellement unis à Dieu. Oh, je vais en parler un peu plus tard. Éternellement unis avec le Dieu éternel. Parfaitement en harmonie avec lui. Parfaitement unis ensemble. Une Église où tous les deux, Dieu et son Église, sont un, unis ensemble. Et si vous remarquez comment Ève était unie à Adam, elle est devenue une partie de lui. Dieu, avez-vous remarqué dans Genèse 1, 27, il a créé l'homme, mâle et femelle. Il les a créés. Maintenant, l'homme était un, les deux, mâle et femelle, en ce qui concerne d'être dans l'esprit féminin et masculin. Puis Dieu a pris de son côte une côte. Avez-vous remarqué que la partie du corps était un sous-produit, mais pas l'esprit? La partie du corps de la femme était un sous-produit après que la création eut été terminée. Dieu a pris du côté d'Adam une côte et a formé une femme, mais pas l'esprit. L'esprit faisait partie d'Adam, car il était à la fois homme et femme, spirituellement parlant, à la fois masculin et féminin. Maintenant, ne voyez-vous pas le grand tableau? Nous, dans la chair, nous sommes différents. Nous sommes comme un sous-produit, un être créé par les liens sacrés du mariage. Mais en esprit, nous sommes des fils et des filles, non pas un autre esprit, mais l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance, à son unité, à l'image parfaite du Dieu vivant, parce que nous devenons fils et filles, pas séparés, mais le même esprit, le même Dieu, la même personne, unie par le mariage à l'éternel. Voyez comment Dieu l'a planifié, afin que nous ne soyons pas différents, mais comme lui, pas un quelconque être d'une autre tribu, mais une véritable union et un rejeton du Tout-Puissant, issu d'une sainte union. Maintenant, le corps vient de la mère et du père, mais l'esprit vient de Dieu. Dieu qui se sépare lui-même, comme Adam a été séparé au jour de la Pentecôte. Nous voyons le Saint-Esprit, la colonne de feu, se séparer et se placer sur chaque membre de cette Église. Dieu se rassemblait lui-même. Alors, avec ce groupe de personnes ensemble, qu'est-ce que cela fait? Cela ramène le corps unifié du Seigneur Jésus. Ils se rassemblent. Et aujourd'hui, dans cette grande séparation dans laquelle nous vivons, la différence dénominationnelle et ces choses, quel dommage, quelle honte! Joint par un mariage céleste au Dieu éternel, une partie de lui, une partie de Dieu. Dans la chair, je suis devenu Branham à cause de mon père, Branham. Vous devenez une partie de votre père et de votre mère. Mais dans l'esprit, nous devenons en union avec Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'esprit ne peut pas mourir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et à l'image qu'il porte ici sur terre, et à son image, je le ressusciterai au dernier jour. Pas un être esprit, car nous aurons un corps comme le corps glorieux de Dieu, le corps glorifié du Seigneur Jésus ressuscité en cette image. Jésus a dit en allant à la tombe de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez en moi, non à moi, mais en moi, à être en lui, croyant. Si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, en lui, en croyant. » Oh là là! J'espère que le Saint-Esprit fait descendre cela en vous. Maintenant, vous êtes le petit troupeau. C'est pourquoi que, durant la semaine, qu'en prière et en demandant à Dieu, j'ai choisi ce texte pour vous montrer où nous en sommes. Crois en lui. Vous ne pouvez pas croire en lui tant que vous ne venez pas en lui ou avant qu'il vienne en vous. Alors, vous croyez en lui. Alors, vous avez la vie éternelle. Vous croyez en lui jusqu'à ce que vous receviez la vie éternelle. Alors, la vie éternelle est la vie de Dieu en vous. Alors, vous croyez en lui. Vous en moi, moi en vous. Pour qu'il soit un Père, comme toi et moi sommes un. Dieu en Christ. Christ dans l'Église. Vous voyez? De même que nous sommes un, qu'eux aussi soient un. Alors, comment pouvez-vous être un si vous demeurez en moi? Mes paroles en vous. Voyez? Demeurez. Mes paroles en vous. Alors, demandez ce que vous voulez. Car ce n'est plus vous, c'est la parole qui est en vous. Et la parole est Dieu. Bon, la parole de Dieu est une épée. Hébreux chapitre 4 le dit. Hébreux 4, 12. Maintenant, c'est une épée. Et une épée est parfaitement immobile si elle n'est pas tenue par une main ou une puissance. Et ça, mais il faut une main pour tenir l'épée. Et ça prend la main qui tient cette épée. C'est la main de la foi. Maintenant, cette main de foi, ça dépend de comment elle est forte. Cette main de foi pourrait être juste assez forte pour faire une petite entaille dans les ténèbres et dire, « Par la foi, je suis sauvé. » C'est une bonne entaille, mais bon, si c'est toute la force que cette main a pour brandir cette épée, c'est tout ce qu'elle peut entailler. Mais si c'est une main forte, elle va couper n'importe quoi que le diable peut mettre là et faire briller toutes les promesses de Dieu dans la puissance de sa résurrection. Si c'est une main forte de foi, les jours des miracles, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, elle se taille un chemin à travers. Cela dépend de la force de la main derrière l'épée. Et l'épée est très coupante. Hébreux 4 a dit, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants qui coupe en entrant et en sortant. Et va même jusque dans la moelle de l'os et dans les jointures. Et elle discerne les pensées du cœur. Elle va au-delà du physique. Elle entre dans le domaine spirituel et capte les pensées du cœur et les révèle. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Maintenant, cette parole va trancher là-dedans. Si le bras est assez fort pour la faire entrer, elle va trouver sa place et va trancher chaque promesse pour vous la donner. Si seulement votre bras est assez fort derrière elle, l'épée, saisissez-la avec un bras de foi. Tenez-la bien, tenez-vous-y et marchez à l'encontre de l'ennemi. Comment cet ennemi incirconcis peut-il rester dans la présence du Dieu éternel? Ainsi, vous prenez l'épée de la parole et chaque promesse vous appartient. Prenez-la dans une main forte de foi. Avancez. Si vous avez besoin de guérison, tranchez-la avec la parole. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous avez besoin du salut, chaque promesse de la Bible vous appartient. Elle se trouve là et Satan essaie de la cacher. Mais prenez l'épée et avancez dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille sur votre âme et que vous ayez la promesse. Il va le faire. Adam était une partie de... Ou Ève était une partie d'Adam. Elle était chair de sa chair et os de son os. Et c'est ça qu'est l'union correcte. Et c'est ça qu'est l'union correcte de l'Église. Esprit de son esprit, parole de ses paroles. Ne dévie jamais de la parole. Le vrai croyant ne fera de compromis sur aucune parole. Rappelez-vous, ce n'était que sur une seule parole qu'Ève a fait un compromis. Une seule parole. Mais le vrai croyant ne fera de compromis sur aucune parole. Cela va tenir l'épée de la foi avec, dans la foi plutôt, l'épée de la parole et va réclamer chaque promesse divine que Dieu a faite. C'est ça. Ils étaient des exemples de Dieu pour nous. Ce que nous devrions être, eux, toujours présents, sans jamais faillir. Quand ils parlaient, Dieu répondait. Il les observait tous les jours, la nuit, quand ils s'endormaient, il veillait sur eux. Le jour, il les guidait, les nourrissait, les aimait, il communiait constamment avec eux, tout le temps. Ils étaient à l'image de Dieu, et Dieu était en eux. C'est ce qui fait une communion. C'est ce qui fait l'union. C'est Dieu dans son Église. C'est ça l'union. Nous pourrions dire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'endroits à voir. Être unis à lui, c'est la vie éternelle. Et la seule façon de nous unir à lui, c'est de venir selon chaque iota de sa parole. C'est vrai. Prenez chaque promesse et croyez-la. Maintenant, Ève était unie jusqu'à ce qu'elle brise une parole ou qu'elle doute une parole comme étant vraie. Ça l'a séparée. Toute parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ainsi, nous pouvons être en Dieu unis, parce que Adam et Ève, avant la chute, avant d'avoir été incrédules à la parole, étaient un exemple de ce que nous pourrions être en lui. D'être unis à lui, c'est la vie. D'être séparés de lui, c'est la mort. Maintenant, si nous suivons ses commandements, nous savons que nous faisons des erreurs, mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs. Parce que vous allez toujours en faire. Mais voyez-vous, c'est de suivre ses règles, de faire ce qu'il a dit de faire. Trébucher et tomber n'a pas rien à voir avec ça. Un vrai et véritable serviteur, s'il tombe, il va se relever. S'il chancelle, Dieu le remet tout de suite sur le chemin, tant qu'il est sur le chemin du devoir. Mais s'il n'est pas sur le chemin du devoir, Dieu n'est pas obligé à lui. Mais tant qu'il est sur le chemin du devoir, Dieu est obligé à lui. sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme. Il est obligé à cette personne tant qu'ils sont sur le chemin du devoir. Maintenant, l'Église est maintenant fiancée à Christ pour le mariage. Le mariage n'a jamais été célébré encore. Ce sera au souper des noces de l'agneau. Alors, nous voyons que l'Église est maintenant fiancée, comme un homme fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre toutes sortes de choses. Il lui envoie des présents. Il la fait se sentir bien. Eh bien, c'est ce que Christ fait à son Église. Il nous envoie des dons de l'Esprit. Comment pouvez-vous être fiancé alors que vous niez l'existence de ces dons? C'est le signe même de l'amour. C'est le gage de Dieu pour l'Église. Jésus l'a dit. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Maintenant, gardez ces choses à l'esprit. L'Église doit croire chaque parole, chaque promesse, chaque iota et les réclamer pour eux-mêmes et s'exercer dans cela. Si j'étais fiancé à une fille et que j'étais célibataire et que je lui envoie quelque chose, une bague de fiançailles, et qu'elle ne voudrait pas la porter, alors cela montre qu'elle ne me croit pas. Elle ne veut pas être mon épouse. Et si Christ envoie à son Église les dons qu'il a promis et qu'il les refuse et disent « ils n'existent pas, ils ne veulent pas être l'épouse de Christ », ils sont mariés à un autre amant et non à Christ, l'époux. Alors, la véritable Église garde la promesse, elle garde tout et accepte les dons que Dieu lui envoie. Très bien. Alors, les premiers êtres humains ont coupé leur communion d'avoir la foi en Dieu en étant incrédules à sa parole et en écoutant un mensonge du diable. Maintenant, c'est la première chose qui a coupé la communion de cette merveilleuse union. Alors, regardez, Adam et Ève dans une position pour ne jamais mourir, une position pour ne jamais vieillir, ne jamais être malade, ne jamais avoir de soucis. Vous dites, j'aurais aimé pouvoir être comme ça. Permettez-moi, j'ai des nouvelles pour vous. Vous êtes dans la même position. Dieu donne cela à chaque créature sur la terre, dans la même position. Quelle était l'entente? Si vous gardez mes paroles, si ma parole, si vous la gardez, y croyez et agissez selon elle, mais dès la première fois qu'Ève a été incrédule, qu'elle a retranché une parole, de ce que Dieu avait dit, cela a rompu la communion avec cette grande union. Et dès l'instant où l'Église est incrédule à une seule parole de la Bible de Dieu et la place à un autre endroit, alors ils rompent cette merveilleuse communion qui leur est offerte. Et pour être séparés, dès qu'elle a fait cela, la mort s'est installée dans son être mortel. Non seulement son être mortel, mais son être spirituel. Elle a rompu sa relation avec Dieu dès l'instant où elle a été incrédule. Et aucun homme ne peut croire, voilà, aucun homme, aucune femme ne peut croire au mensonge du diable avant d'avoir été incrédule à la vérité de Dieu. Personne ne peut croire le mensonge du diable avant d'avoir été incrédule à la vérité de Dieu. Alors, vous voyez, Ève, Adam, où cela nous place ce matin? Maintenant, pensons-y sérieusement, parce que nous ne serons plus en mesure de penser après cela, après que cette vie mortelle soit terminée. C'est maintenant que vous devez y penser. Vous ne pourrez pas choisir après cela. Vous devez choisir maintenant, car c'est le temps de choisir, de faire votre choix. Maintenant, elle, une seule parole, pas tout un décalogue, juste une parole, elle a questionné Dieu parce que cela lui avait été présenté dans cette lumière. Que cette parole était questionnable. La parole de Dieu ne peut pas être questionnée. Il a voulu dire exactement ce qu'il a dit. Mais elle l'a questionné parce que cela lui a été présenté. Oh, Dieu n'a sûrement pas voulu dire ça. Mais c'est bien ce qu'il a voulu dire. Dieu pense chaque parole qu'il dit. Et cela n'a pas besoin d'aucune interprétation particulière. C'est simplement comme il l'a dit. Eh bien, vous dites, comment savez-vous que ce qui en est de la Bible? Je crois que mon Dieu a guidé cette Bible. Il veille sur sa parole. Il savait que les athées et les infidèles se lèveraient dans les derniers jours. Alors, il a veillé sur elle. Ceci dit exactement ce que Dieu a voulu dire. C'est ainsi qu'elle est pour nous maintenant. Maintenant, nous devons la croire. Une seule parole rejetée et nous perdons notre communion et passons dans la mort et la séparation éternelle d'avec Dieu, tout comme Adam et Ève l'ont fait. Nous devons croire la vérité de Dieu. Laissez-moi répéter ça. Ne doutez pas une seule parole de la Bible de Dieu. Mais ne dites pas simplement, « Oui, je la crois. » Vous dites, « Mais non, il n'y a rien à dire là-dessus. » Si vous la croyez, vous allez l'accepter. Si vous la mettez de côté et dites, « Eh bien, mon Église ne la croit pas de cette façon, » alors vous ne croyez pas que c'est la parole de Dieu. Et vous allez repartir sous la même condamnation sous laquelle Ève est repartie. Vous vous êtes séparé de l'Éternel quand vous aviez la chance d'être unis à lui. Maintenant, souvenez-vous, cela ne peut pas être questionné parce que c'était une parole qui était dans la parole de Dieu. Et maintenant, si Dieu avait juste quelques paroles ici auxquelles les gens doivent obéir, et que dans ces quelques paroles, l'une d'elles était mal interprétée, cela a causé la mort. Regardez les paroles que nous avons aujourd'hui, voyez. Nous devons recevoir chacune d'elles, s'accrocher à elles, et les prendre comme étant les promesses de Dieu. Et une vraie femme de Dieu va faire cela, une vraie fiancée épousée. Maintenant, j'espère que ces petites choses descendent profondément afin que nous puissions les saisir. Quelle a été la première chose qui a amené Ève à être incrédule à la parole de Dieu? C'est parce que Satan lui a promis plus de sagesse. Tu vas être sage. Maintenant, vous voyez, la race humaine est toujours à la recherche de quelque chose. Et Ève aspirait à plus de sagesse. Maintenant, arrêtons-nous juste un instant. N'est-ce pas là l'état du monde aujourd'hui? Ils veulent plus de sagesse, une meilleure classe de gens, plus instruites. Ils veulent quelque chose de différent, plus de sagesse. C'est ce que voulait Ève. Mais permettez-moi de dire ceci aussi, qu'il n'y a pas de sagesse qui puisse surpasser celle de Dieu. Et pourtant, c'est sous une forme si humble que les gens passent à côté. Satan, comme je l'ai dit plusieurs fois, il brille, mais l'Évangile rayonne. Oh, il y a toute une différence entre briller et rayonner. Hollywood brille, mais l'Église rayonne de la puissance et de l'amour de Dieu. Hollywood brille. Il y a toute une différence entre briller et rayonner. Nous ne voulons pas briller, nous voulons rayonner. Aujourd'hui, c'est dommage de penser cela, mais les églises essaient de s'appuyer sur leur propre intelligence, exactement comme Ève l'a fait. Elle pensait, parce que cela lui était présenté, ça semblait si réel. Oh, ne manquez pas de saisir ceci. Ça semblait si réel. Quelque chose qui pouvait être ajouté à ce que Dieu avait dit. Il semblait qu'elle allait avoir quelque chose que Dieu ne lui avait pas dit jusqu'où elle pouvait aller. Dieu ne lui avait pas indiqué la limite comme il l'avait fixée pour la mer et elle ne peut pas la dépasser parce que la lune la surveille. Elle a pensé que Satan avait quelque chose de rapide, comme on dit, qu'elle pourrait rester quand même en union avec Dieu. Tout en étant plus intelligente, elle aurait une meilleure instruction. Mais Dieu lui avait donné exactement ce dont elle avait besoin. Il a donné à l'Église la même chose. Ce n'est pas ce qu'un séminaire en dit ou qui vient ou ce qu'en dit une école biblique. Mais c'est exactement ce qui est écrit et ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas le changer. Mais les Églises s'appuient sur leur propre intelligence. Ils pensent que peut-être c'est seulement donné à eux et c'est trompeur. Je dois juste attendre ici un instant. Le monde entier est basé sur cela. Toute l'économie de cette nation repose sur une fausse conception. Je vais vous raconter une petite blague sur moi-même. Ce n'est pas une blague, mais vous savez que nous aimons tous nos femmes, du moins nous le devrions. J'ai regardé un programme ici il y a quelque temps, dans l'Ouest, il y a longtemps, environ 3 ans, et dans ma chambre un matin, je me suis levé, il y avait une télévision dans la chambre, et j'ai pensé, il semble faire mauvais temps, et j'ai pensé, eh bien, à 8 heures, il devrait y avoir les nouvelles. Et j'ai pris le petit pamphlet, cela disait que les nouvelles étaient à une certaine heure. J'ai donc ouvert aux nouvelles, et comme je les écoutais, j'ai remarqué qu'au milieu du bulletin de nouvelles, ils ont interrompu pour annoncer une sorte de produit, une sorte de détergent, et ça disait, « Vous n'avez plus à faire la vaisselle, madame. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la mettre dans l'eau et de la reposer, laisser reposer pendant quelques minutes, et de l'en retirer, de la poser sur l'égouttoir, c'est tout. » J'ai pensé, je vais être un héros quand je vais rentrer à la maison. J'ai pris le nom en note et de ce produit-là, et j'ai dit, je vais dire à ma femme, « Regarde ce que je peux faire. » Je suis donc allé acheter une bouteille de tel et tel produit et je l'ai tout déversé dans l'eau. Je lui ai dit de continuer à balayer la maison, que j'allais la laver pour elle. Alors j'ai pris les plats des enfants et j'ai gratté les miettes et ainsi de suite. Et l'œuf qui collait dessus, et je les ai mis dans l'eau et je les ai laissés reposer quelques minutes. Je les ai retirés et placés là. Il y avait là autant d'œufs dessus que quand je les avais mis dedans, voyez. J'aurais perdu. Ma femme aurait perdu confiance en moi à ce moment-là. Voyez pourquoi est-ce que la nation, pourquoi cette nation laisse-t-elle des gens être trompés? Ça ne devrait pas être permis que cela soit dit comme ça. Cela devrait être illégal. Quand on pense à la publicité moderne sur la cigarette, quelle honte! Pas aucune toux dans un wagon complet, toutes sortes de choses. Cela ne devrait pas être permis. Qu'est-ce que ça fait? C'est trompeur. Il y a la mort dans chacune d'elles. Il y a la mort lorsqu'on boit du whisky, le viol, le meurtre, la folie dans la bouteille. Mais bon, nous sommes autorisés à le mettre dans nos programmes et de le publiciser comme la sorte que grand-papa buvait. Plus de joie de vivre, certaines sortes de boissons, de bière et d'alcool. Qu'est-ce que c'est? C'est trompeur. C'est mettre quelque chose devant le public pour qu'il se tue avec. Et il nous est permis de le faire. Et permettez-moi de retourner ça dans l'autre sens. Et les Églises, par le moyen de dogmes faits de main d'homme et de credos faits de main d'homme, présentent une grande façade aux gens. Et ils tombent dans le piège, ce qui est la mort. Aucune Église ne va nettoyer votre âme. Aucun credo ne peut nettoyer votre âme. Seul le sang de Jésus-Christ peut purifier votre âme. Le remède de Dieu, il est confirmé. Alors, c'est complètement fou. Mais les gens s'appuient sur l'intelligence des sages et ils en meurent. Et les gens, aujourd'hui, s'appuient sur l'intelligence des credos et des dénominations et des millions comme des porcs pour l'abattoir sont en train de plonger dans un puits sans fond de l'enfer. Quelle honte! Il nous est défendu de nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous ne pouvons pas essayer. Vous dites, n'est-ce pas qu'un groupe d'hommes devrait en connaître davantage sur le sujet qu'une seule personne? Pas si cette personne prononce la parole de Dieu. Il y avait 400 prophètes une fois qui sont venus devant deux rois et qui s'appuyaient sur leur propre intelligence. Mais il y en avait un qui restait avec la parole de Dieu. Il s'est avéré qu'il avait raison. Michée. Cela dépend si c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole est faux. Ça conduit à la mort. Aucune sagesse ne peut surpasser la sagesse de Dieu. Il est le plus intelligent des intelligents. Il est la source. Il est la seule ressource de sagesse. Toute parole d'homme est folie et mensonge, sauf celle de Dieu. Si elle est contraire à celle de Dieu, maintenant, si la personne prononce la parole de Dieu, alors ce n'est plus la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Satan vous fera toutes sortes de promesses, mais n'a rien à vous donner parce qu'il n'a rien. Il n'a pas de salut. Satan, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole? Il n'a pas de salut. Il n'a pas de lumière. Son royaume est ténèbres. La fin, par conséquent, est la mort. Les ténèbres et la mort sont le royaume de Satan. Frère Branham, répétez-le encore. C'est quoi le royaume de Satan? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Maintenant, c'est tranchant. Mais il est temps de trancher. Vous voyez? La branche, l'arbre, si elle doit porter du fruit, elle doit être émondée. C'est l'heure. Tout ce qui est contraire aux préceptes de Dieu, à la parole de Dieu, n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le péché? La justice pervertie. Qu'est-ce que la mort? La vie pervertie. Qu'est-ce que le royaume de Satan? Tout ce qui place quelque chose à la place de la parole, n'importe quoi, n'importe quel enseignement, une parole, une seule parole. Vous pourriez croire chaque parcelle, Ève en a cru chaque parcelle jusqu'à cette seule parole. Cette seule parole est tout ce dont elle avait besoin de douter. Cette seule parole est tout ce dont vous avez besoin de douter. Maintenant, regardons cela. La seule façon de rester dans la communion divine, c'était de garder cette parole. Dieu a dit, tu feras ceci, tu ne feras point ceci, tu feras ceci, et tu peux faire ceci, et faire ceci, mais ne fais pas ceci. Maintenant, juste une petite parcelle d'un commandement qu'elle a désobéi. Et cela a commencé toute la chose. Parce qu'elle a fait cela, elle est responsable de chaque enfant affamé qui n'ait jamais été dans le monde, chaque chagrin dû à la mort, chaque peine, chaque chagrin. C'est là qu'elle l'a fait. Quelle chose horrible que de douter de la parole de Dieu. Toutes les personnes qui gémissent de douleur pour chaque mort qu'il y a eu ou qu'il y aura, c'est là qu'elle l'a fait. Chaque petit enfant illégitime, c'est là qu'elle l'a fait. Chaque enfant né sous hors du mariage, chaque péché qui a été commis, elle l'a causé juste là en gardant chaque parole à la lettre, sauf à un petit endroit ici. Et elle a raisonné. Elle ne l'a pas ignorée, elle le savait, mais elle était juste, elle a été attirée à faire quelque chose de mieux parce qu'on lui avait promis une meilleure classe de gens, une plus grande sagesse, une meilleure connaissance de cela. Si elle faisait ceci, nos ministres sont mieux instruits, nous avons une meilleure classe. Il n'y a pas de meilleure classe de gens dans le monde que ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est la meilleure, c'est la seule classe que Dieu regarde. Juste un petit moment encore et peut-être que Dieu va nous laisser l'aborder. Son royaume ne peut promettre rien d'autre que la mort. C'est tout ce qu'il a. Il est l'auteur de la mort. Il peut promettre des mensonges parce qu'il est le père du mensonge. Il ne peut pas vous donner la vie. Il ne peut pas vous donner le ciel. Il n'a pas de ciel à vous donner. Pensez-y! Une seule parole de ne pas croire Dieu par la promesse du diable ou de ses machinations. Une parole vous envoie dans le tourment. C'est comme ça que ça a commencé. Et si Dieu, dans sa miséricorde, comme il est, enverrait cette masse d'enfer sur la terre et causerait de petits enfants affamés, toutes sortes d'afflictions et des gens affamés et la mort sur la terre à cause d'une parole au commencement, n'aurait-il pas pu le reconsidérer et renoncer à avoir toute cette masse de souffrance? N'aurait-il pas pu le faire? Alors, s'il n'a pas excusé une seule parole là, sachant que cela en serait les résultats, combien plus il n'excusera pas une seule parole là quand l'individu va être le seul à souffrir, celui qui ne croit pas? Pensez-y, c'est une chose terrible. Maintenant, quand Adam et Ève ont écouté le mensonge du diable, l'image sainte de Dieu les a quittés. Leur communion avec Dieu était brisée. Leur communion en unité avec Dieu était brisée. Dès l'instant où ils ont écouté le mensonge du diable, cela a brisé leur communion. Et dès l'instant où vous écoutez le mensonge du diable, cela va briser votre communion. C'est l'instant même où vous sortez de la présence de Dieu, comme elle l'a fait, c'est quand vous échouez de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Bon, regardez, je veux vous demander quelque chose. Nous savons tous qu'il y a un Dieu. Et si Dieu est tellement correct avec sa parole et tellement déterminé qu'il va juger les gens par sa parole, alors il se doit de préserver une parole quelque part pour juger les gens par elle. C'est cette Bible. N'oubliez pas ça. C'est par la Bible que Dieu va juger les gens. Car elle dit dans Apocalypse 22, celui qui en retranchera une parole ou y ajoutera une parole. Voyez? Ne vous contentez pas de dire, eh bien, je vais à l'église, je crois en Dieu, eh bien, tous les démons de l'enfer croient en lui. Chacun d'eux est religieux, chacun. Mais il suffit d'une parole pour briser la communion, juste là. Une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Et l'endroit où vous êtes le plus faible à être incrédule à la parole de Dieu, c'est là que vous voulez mettre un nouveau maillon. Solide avec les autres. Si vous croyez que Jésus-Christ sauve, alors vous devez mettre un maillon là qui croit qu'il guérit. Si vous croyez qu'il était, vous devez croire qu'il est. Alléluia! Si vous croyez qu'il était et que vous vous demandez s'il l'est, ce maillon va se briser. Alors vous êtes perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rigide, c'est dur, mais c'est la vérité. Vous devez le croire, chaque parole, tout ce qu'il a dit. Maintenant, vous dites, eh bien, frère Barnum, qu'en est-il de cette dénomination? Eh bien, maintenant, écoutez, si elles sont avec cette parole, très bien. Mais si elles nient cette parole, alors ce n'est pas vrai. C'est encore le diable, vous voyez? Qu'en est-il de cette certaine église? Je ne sais pas ce qu'il en est de cette église. Je sais seulement ce qu'il en est de cette parole. Maintenant, comment allez-vous croire une église alors qu'il y a 900 et quelques différentes dénominations et que chacune dit notre dénomination a exactement la vérité? Maintenant, où iriez-vous? Vous devez avoir foi en quelque chose. Eh bien, vous dites, j'ai foi dans les méthodistes, dans les baptistes, dans les presbytériens, dans les luthériens, dans les pentecôtistes, dans les catholiques, quoi que ce soit. Vous avez foi en cette organisation. Et si elle est contraire à la parole, vous faites la même chose qu'Ève a faite. Exactement. Vous faites exactement la même chose qu'elle a faite en prenant la parole de Dieu et en la faisant. Eh bien, il y a une meilleure classe de gens qui vient ici. C'est un bâtiment plus grand. Ce sont des hommes plus intelligents. Ça n'a absolument rien à y voir. Satan était bien plus intelligent qu'Ève. Elle n'était même pas dans le tableau. Mais elle n'était pas censée être intelligente. Elle était censée être obéissante. Nous ne sommes pas censés être intelligents. Jésus a dit que les enfants de ce monde, ou le royaume de ce monde, est beaucoup plus intelligent, les enfants des ténèbres, que les enfants de la lumière. Nous sommes comparés aux brebis. Les brebis ne peuvent même pas se conduire elles-mêmes. Elles doivent avoir un berger. Dieu ne veut pas que nous soyons intelligents. Il veut que nous nous appuyions sur son intelligence. Amen. Simplement là où il conduit. Amen. Vous voyez le tableau? Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, Proverbe 5:3. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur son intelligence. Peu importe combien cela semble contraire et combien les lumières semblent briller beaucoup là-bas, n'y portez aucune attention. Appuyez-vous simplement sur son intelligence. Ce qu'il a dit est la vérité. Donc, l'unité de la communion était brisée entre Dieu et ses enfants dès l'instant où elle a été incrédule à un tout petit paragraphe ou une toute petite parole de Dieu. Tout le monde qui comprend cela, dites Amen. Pas une Bible. Vous dites, je ne crois pas du tout la Bible. J'en crois la moitié. Elle devait la croire en entier, chaque iota. Non seulement cela, mais l'unité entre le mari et la femme a été brisée. Je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il devrait être sans une union entre le mari et la femme et Dieu. C'est vrai, ils vont élever des enfants dans le monde et les rendre illégitimes, leur donner des cigarettes, du whisky, jouer aux cartes sous leurs yeux, boire de l'alcool devant eux, peu importe à quel point ils sont loyaux envers leurs vœux de mariage. Ça, c'est sexuel. C'est la chair, mais il y a un esprit là-dedans, et cet esprit d'un papa et d'une maman pécheur, peu importe combien loyaux ils sont envers leurs enfants, ils vont mal tourner. Bon, vous dites, je connais des hommes et des femmes qui n'ont pas enseigné cela à leurs enfants, et ils n'étaient pas chrétiens. Le fait même de ne pas les conduire à Christ était la pire chose qu'ils pouvaient faire à part de l'autre. De ne pas les conduire à Christ, voyez? Ainsi, vous ne pouvez pas avoir une union correcte. Sans cela, la communion est brisée. Ensuite, dès que la communion a été brisée entre Adam et Ève, dès que leur communion a été brisée entre Dieu et eux, alors leur communion entre eux a été brisée. Écoutez, chaque fois qu'une église brise sa communion pour se jeter dans une organisation, la communion des croyants est brisée. Nous devons croire d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même accord. C'est ainsi qu'ils étaient avant que l'union soit faite au jour de la Pentecôte, d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même accord. Et quand vous jetez une église dans une organisation, vous allez obtenir toutes sortes de divisions en elle, parce que certains de ces enfants-là vont croire en Dieu, ils vont s'en tenir à la chose qui est juste, et les autres iront dans l'autre direction. Donc, vous n'avez pas de communion. Oui. Quoi, sa pensée a changé? Oh oui, sa pensée a changé. Sa communion avec son mari n'était pas en ordre. Ils ont commencé à se renvoyer à la balle. Voyez? Sa pensée avait été changée. Pourquoi? Elle avait la vie du diable en elle. C'est exact. À l'instant où elle a été incrédule à la parole de Dieu, elle a accepté la vie du diable parce qu'elle a accepté son enseignement. Je pourrais faire ressortir la chose terriblement fort ici, mais c'est sur bande. Je suis sûr que vous comprenez l'Église. Elle a été incrédule à la parole de Dieu, et cela l'a dissociée de Dieu, parce qu'en elle, dès ce moment-là, il y avait la vie du diable. Elle avait cru à son mensonge. Il avait dit, « Les fruits sont bons. » Et elle les avait partagés avec lui. C'est vrai, je ne vais pas retenir ceci, je vais le laisser sortir de toute façon. Je ne peux tout simplement pas. L'autre jour en Californie, je veux dire en Arizona, j'enseignais dans une église. Je n'ai jamais rien dit sous inspiration que j'ai dû reprendre. Beaucoup de ministres sont venus après moi au sujet de la semence de Satan, la semence du serpent. La femme, elle mangeait une pomme. Ah, c'est... Eh bien, Caïn pense à la même chose. Il a apporté les fruits des champs, vous voyez? Ce n'était pas une pomme. Comment a-t-elle réalisé qu'elle était nue? Nous en avons déjà parlé. C'était en fait une relation sexuelle. Certainement que ce l'était. Elle a réalisé qu'elle était nue. Elle a eu un enfant par le serpent qui n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux. Il était la chose la plus proche d'un homme. L'homme peut trouver des singes et des chimpanzés, et ainsi de suite, mais ils ne peuvent pas trouver ce chaînon qui relie l'homme et la bête. Le voilà, Dieu l'a maudit au point qu'il ne peut plus revenir. C'est de sa faute, à cause de cet acte méchant qu'il a commis. Il était la seule semence qui pouvait se mélanger. Maintenant, l'autre jour, debout, je prêchais. Il y avait un groupe de catholiques dans mon auditoire et j'ai dit, « Vous, les catholiques qui appelez Jésus ou appelez Marie plutôt, la mère de Dieu, comment est-ce que Dieu pourrait avoir une mère alors qu'il est éternel? Il ne peut pas avoir de mère. Jésus n'avait même aucun lien avec Marie, mais il était juste... Elle était un incubateur qui l'a mis au monde. Eh bien, ils ont toujours cru, et jamais, j'avais moi-même cette idée il y a des années, que l'Immaculée Conception était que Dieu l'avait couvert et mis une cellule de sang à l'intérieur, mais que l'ovule venait de la femme. Si l'ovule vient de la femme, il doit y avoir une sensation pour amener l'ovule jusqu'au tube de l'utérus. Vous voyez ce que vous faites avec Dieu? Vous le mêlez à un gâchis sexuel. Dieu qui a créé la cellule de sang a créé l'ovule aussi. Docteur, il doit y avoir le pollen du mâle et de la femelle, c'est vrai? Eh bien donc, si cette femme avait produit l'ovule, comment est-ce que David aurait pu dire « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption » ni laisserai-je son âme dans le séjour des morts. Alors, si l'ovule de la femme était en Christ, alors la personne a quelque chose à voir avec sa part dans la résurrection, alors que c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a suscité la partie sexuelle d'une personne? Dans la résurrection, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé son corps voir la corruption? Parce qu'il était saint. Et comment est-ce qu'il aurait pu être saint s'il avait eu une conception par Marie et que le pollen était venu de Marie? L'ovule aurait descendu par le tube jusque dans l'utérus. Il aurait fallu qu'il y ait une quelconque sensation pour faire descendre l'ovule. Alors la femme serait, eh bien, vous dites, l'ovule aurait pu se trouver là. Cela aurait pu être possible. Mais si c'était le cas, alors regardez ce qui se passe ici. Alors il n'était pas vraiment Dieu. Il n'était pas Dieu dans la mesure où il était humain. Mais alors, si tel était le cas, la femme avait quelque chose à y voir. Et donc, la semence qui vient de Marie, qui vient de sa mère, et de sa mère, et de sa mère, était quelque chose avec de l'humain, de mélanger dans cela avec un désir humain. C'est impossible. Non, monsieur. J'ai dit, elle était seulement, c'est comme si vous preniez l'aigle, et le laissiez pondre un œuf, et le mettiez sous la poule. La poule va faire éclore l'œuf. Elle n'est que l'incubateur, mais il n'y a absolument rien en lui, l'aigle, qui soit du poulet. Non, monsieur. La poule était là. On pourrait attacher un petit chiot sur le dessus d'un œuf d'oiseau, et cela ferait éclore un oiseau. Le chiot le ferait. C'est la chaleur du corps qui fait éclore l'œuf. Et c'est la même chose avec Jésus. Marie était seulement l'incubateur. Dieu l'a utilisée comme il utilise n'importe quelle autre femme. Elle était vierge. Elle n'avait pas eu d'enfant. Il est venu dans un sein vierge. Mais Dieu, le Créateur, a fait et l'ovule et le germe. Il l'a créé. C'est pourquoi c'était une conception immaculée. Quand je sors, bien sûr, vous savez que les frères m'attendent. Ils m'ont dit, « Frère Bonhomme, je veux vous demander quelque chose. Vous avez fait une erreur. Maintenant, nous t'avons pris en faute. » J'ai dit, « D'accord, c'est ce que je veux, qu'on me prenne en faute. » Ils ont dit, « Vous avez commis une erreur en disant ceci, quand vous avez prêché la semence du serpent. Maintenant, vous dites que l'ovule appartenait... Dieu l'a créé, l'ovule, ce qui s'est passé. Nous découvrons ici que dans la Genèse, au chapitre 3, Dieu a dit à Marie, « Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. » J'ai pensé, « Oh là là, Je n'ai jamais rien prêché de ma vie sous l'inspiration que j'ai dû retirer, parce que je ne dépends pas de ma propre intelligence. Et si ma propre intelligence est contraire à la parole de Dieu, alors ma propre intelligence est mauvaise. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Si ça ne l'est pas, laissez ça tranquille, ce n'est pas bon. Mais maintenant, mettre un terme à cela, c'est la chose à faire. Dans mon cœur, j'ai dit, « Père Céleste, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire ici. » L'homme a l'écriture qu'il pointe du doigt. Je mettrai inimitié entre ta semence et celle du serpent. Maintenant, le voici. Le Saint-Esprit est venu. Je crois que celui-là même qui a pu couvrir Marie, qui a pu créer, il peut aussi mettre une parole dans votre bouche. Je dépends de lui chaque jour. Et c'est toujours sa parole. Il ne peut pas dire là quelque chose de contraire à sa parole. Alors, si vous dites que vous êtes loin et prêchez contre les vérités de Dieu, alors ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit vous couvre, il apporte la même chose. Parce que c'est la parole. Écoutez, qu'est-il arrivé? J'ai dit, très bien, je veux vous demander quelque chose. La femme n'a pas d'ovule. Elle n'a pas de semence. Il a dit ici, il n'a pas dit un ovule, il a dit ta semence. Et elle n'avait pas de semence. Il faut une union pour faire une semence. C'est exact. Docteur, forcément, si vous avez beaucoup de pulpe ici qui n'a pas de vie en elle et que vous la plantiez ici, elle ne pousserait jamais. Elle resterait là et pourrirait. Et vous ne pourriez pas planter la vie sans avoir la pulpe. Donc, vous voyez, toute la chose est une union. J'essaie de vous parler maintenant de Christ et de l'Église. C'est une union. Voyez, si la femme est sa propre semence, elle n'a pas besoin du mâle. Elle peut avoir son bébé d'elle-même, mais elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas avoir le bébé avant d'avoir été avec le mâle, parce que ça prend les deux ensemble pour faire une semence. Est-ce que c'est vrai? Planter une semence qui n'a pas de vie dedans, voyez ce qui va se passer. Comme ils ont cette histoire d'une femme qui a donné naissance à ses chiens ici. Voyez, il ne peut pas être vivant. C'est impossible. Parce que, vous voyez, le pollen ne se combinera pas. Bon, remarquez ceci maintenant. La femme n'était pas une semence. C'est pourquoi il a dit, « Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. » Il lui disait qu'il allait lui-même lui donner une semence, non pas par une relation sexuelle, il allait créer en elle une semence. Eh bien, vous dites, serait-ce sa semence? Oui, elle appartiendra alors à Marie après qu'il lui a lui donné. Ceci est mon œil, il m'a donné ceci, c'est mon œil, mais il me l'a donné. Ceci est ma main, il me l'a donné. Ceci est ma voix, mais il me l'a donné. Voyez? Et la semence qui était Marie n'avait rien à voir avec Marie. C'est quelque chose que Dieu a fait lui-même. Alors, la semence qui était en elle à ce moment-là était l'union d'un acte illégitime qui était la mort. Elle était déjà enceinte de la semence du serpent parce qu'elle avait vécu avec le... Elle s'est retournée et a dit elle-même, « Le serpent m'a séduite. » C'est vrai? Et immédiatement, Caïn est arrivé. Oh, nous savons qu'elle a dit qu'elle a eu un enfant de Dieu. Certainement, chaque enfant qui est né illégitime et autre doit venir par un acte de Dieu. Il est le seul qui puisse faire la vie. Certainement, c'est vrai. Voyez, elle avait déjà, allait déjà être mère et ça n'a jamais, la seule chose que cela a faite a été d'éclaircir ce qui concerne la semence du serpent. Cette semence qui est en toi maintenant est par conception ton acte illégitime contre ma parole avec cette chose ici et tu portes maintenant la semence du serpent. Mais je te donnerai une semence par une conception immaculée, et sa semence écrasera la tête du serpent, et sa tête lui blessera le talon. Amen. Laissez Dieu l'avoir. Si c'est sa parole, il va l'accomplir. C'est la raison pour laquelle vous devez être en union avec Dieu. C'est la raison pourquoi Pierre, au jour de la Pentecôte, a dit, après que Jésus ait dit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit », Pierre s'est retourné, il a dit, « Baptisez-les au nom de Jésus-Christ ». Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Il faut une union. Paul n'avait jamais vu Pierre. Mais le même Saint-Esprit dans cette même union. Gloire! lui a fait dire la même chose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il a dit, nous ne savons pas si ça existe. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, du baptême de Jean. Il a dit, vous devez être rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Et il reçut le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était? L'union qui dit la même chose que Dieu dit. Et c'est la confession. Confesser signifie dire la même chose. Il est le souverain sacrificateur de notre confession pour agir selon ce qu'il a dit. Nous disons que c'est la vérité. Il agit là-dessus. Oh là là, vous y voilà. Voilà comment ça a été conçu. Maintenant, regardez comment son union entre elle et son mari était brisée. Voyez, rapidement, dès que Dieu a dit, « Adam, comment as-tu fait cela? » Au lieu de prendre le parti de sa femme, il a mis la faute sur sa femme, la femme que tu m'as donnée. L'union était brisée, voyez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'aimer son mari et de dire la vérité, elle a menti. Elle aurait dû dire, il est innocent. C'est moi qui lui ai donné. Amen. La Bible dit, elle en a donné à son mari. Elle aurait dû dire, cet homme est innocent. Je lui en ai donné. Puis elle en a mangé. Il en a mangé. Mais c'est moi qui le lui ai donné. Au lieu de cela, elle a mis la faute sur le serpent, la porte de sortie la plus proche. C'est la même chose qu'ils essaient de faire aujourd'hui. Voyez, le mari, la femme, l'union est brisée. Mari et femme, la communion était brisée entre eux, leur unité était brisée, l'unité entre eux et Dieu était brisée, tout le tableau était gâché. Pourquoi? Parce qu'une parole avait été mise en doute. Oh là là, frère. Oui, elle aurait dû dire la vérité. L'unité entre elle et son mari avait disparu, et l'unité entre eux et Dieu avait disparu. Et toute Église qui ne prend pas toute la parole de Dieu, la même chose lui arrive. J'aime cela, pas vous? Regardez son premier-né, Caïn, un meurtrier, un menteur, un trompeur, jaloux de son frère. Son frère gardait les commandements de Dieu, et Dieu avait fait une expiation en tuant une offrande et en l'offrant pour eux. Regardez l'ignorance de cela maintenant, de Satan. Il a essayé de substituer quelque chose. Dieu, la Bible dit, il est allé faire des linges de peau pour avoir des peaux. Quelque chose a dû mourir. Adam a essayé de se faire des linges à partir de feuilles de figuier. Ça ne marchait pas. La vie botanique, la vie qui se mouvait devait mourir. Il a donc tué une forme de vie inférieure, signifiant par cela que, un jour, ma propre vie sera donnée pour vous. La vie véritable qui ramènera cette union à nouveau. Maintenant, nous y arriverons dans quelques minutes, si Dieu le veut. Voyez, voici la vie d'un agneau. Maintenant, mettez ça autour de vous et cachez votre nudité. Vous ne devez pas manger de pommes. C'est absurde. Voyez, mettez ses peaux autour de vous. Il a fallu qu'il tue quelque chose. Et le fils de Satan n'est pas venu de la manière qu'il le voulait, qu'il l'avait. Peu importe comment vous voulez le dire, c'était le fils de Satan parce que cette pureté d'Adam pour Dieu n'aurait pas pu produire ce genre de choses. Remarquez ensuite, le fils de Satan, en essayant de faire une expiation, est revenu avec la même chose que la plupart des gens disent aujourd'hui, un tas de pommes et de fruits du pays pour offrir une expiation, un antidote. Et qu'a fait Abel le juste? Il savait que cela n'avait rien à voir avec le fait de manger des pommes. Il était le sang de sa mère et de son père, leur vie. Alors il a apporté un agneau, tout comme Dieu l'avait fait. Alléluia! Il a gardé la parole de Dieu. Et Caïn était jaloux de lui. C'est pareil aujourd'hui. Venez dans cette offrande de sang, cette parole de Dieu, exactement ce qu'elle dit. Restez avec cela. Beaucoup d'entre eux croiraient à cette offrande de sang, bien sûr, mais dites quelque chose d'autre dans la parole. Ils disent, « Oh non, je ne crois pas cela. Ah oui, c'est pour un autre jour, le même vieux démon, le même vieux truc. Attendez qu'on en ait fini avec ça. » Remarquez, il vient de la même façon. Mais Caïn, avec ses manières stupides, pas si stupides, mais dans ses manières habiles, séduit à apporter des fruits. Adam a gardé la, Abel a gardé la parole de Dieu. Il a apporté un agneau. Dieu a dit, c'est juste Adam, tu as gardé, ou Abel, tu as gardé ma parole. Caïn, tu savais ce que ce n'était pas. Où est-ce que j'ai pris les feuilles de figuier comme ton papa a essayé de le faire? Tu as un tas de figues ou de raisins ou de pommes ou peu importe ce que tu as ici. Et maintenant, ton papa a pris les feuilles de l'arbre pour essayer de faire une expiation. Et ici, tu essaies d'apporter le fruit de l'arbre? Ce n'était pas ça! C'était le sang de la vie! Oh, Dieu l'a amené et a dit, le voici. Et Abel a fait le bon. Alors son frère était jaloux de lui. Regardez ce qu'il a fait. Il a tué son frère. Dieu en a suscité un autre, comme la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Observez, Dieu alors, qu'a-t-il dit à Adam et Ève? Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Il a répandu la race humaine sur toute la terre afin qu'il puisse traiter avec eux individuellement et qu'il puisse les ramener ensemble. Il traite avec les gens, les individus, chaque personne. Mais il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Ne manquez pas cette révélation. Dieu, que cela se produise. Puissiez-vous le voir de la façon que je le vois? Vous voyez, ce n'était pas ça. Dieu ne traite pas avec une personne dans un groupe. Dieu ne traite pas avec vous dans une organisation. Il traite avec vous en tant qu'individu. Un individu. Individuellement. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Ensemble, nous sommes baptisés dans le corps lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Individuellement, chacun est baptisé du Saint-Esprit. Dieu qui traite avec chacun, c'était son but de les disperser sur la terre afin qu'ils puissent traiter individuellement avec eux. Mais au lieu de cela, que s'est-il passé? Dieu a dû séparer les gens de Caïn de ceux de Seth. Il a envoyé Caïn au loin. Il les a séparés afin qu'ils puissent traiter avec son Église. Observez, Caïn a été séparé. Maintenant, regardez. Dieu a séparé le méchant Caïn d'Ève du saint Seth d'Adam. Oh, l'a-t-il fait? Par un acte illégitime. Cette femme a vécu avec quelqu'un d'autre et a mis un enfant au monde. Dieu a séparé cet enfant et sa génération de cet homme juste et saint et ses enfants. C'est la même chose aujourd'hui. Ils se séparent. Ils sont séparés. Il les a trouvés. Ils n'étaient pas en unité. Ils ne pouvaient pas avoir d'unité. Est-ce que la nuit peut être en unité avec le jour? Est-ce qu'un croyant peut être en unité avec un infidèle? Est-ce qu'un homme qui croit dans toute la parole de Dieu peut être en unité avec ceux qui croient juste une partie de la parole de Dieu? Dieu veut des séparateurs! Maintenant, Caïn était le fils d'Ève. Elle a dit, « J'ai eu un fils. » Mais Seth était le fils d'Adam. Et Dieu les a séparés parce qu'il ne pouvait pas les laisser. Eh bien, ils se corrompaient l'un l'autre. Les enfants méchants de Caïn corromperaient les bons enfants de Seth, c'est vrai. Maintenant, regardez. Et le même vieux démon qui a fait qu'Ève doute d'une seule parole de Dieu et qui leur a dit de se séparer les uns des autres et de vivre différemment chacun d'eux. Ce même démon s'est introduit parmi eux et les a réunis à nouveau. L'avez-vous saisi? Dites « Amen » si vous l'avez fait. Il les a réunis de nouveau sous une fausse union, un acte de Dieu contre le plan de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment a-t-il fait ça? Les fils de Dieu, que dit la Bible dans la Genèse, virent les filles des hommes. Les fils de Dieu, les enfants de Seth, virent les filles des hommes, les enfants de Caïn, comme elles étaient belles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés amoureux d'elles. Ils se sont unis ensemble de nouveau à cause de la beauté, qu'elles étaient belles à regarder. Même chose aujourd'hui. C'est ça, mes frères. Vous, les pentecôtistes qui sont faibles, que Dieu vous a séparés et envoyés pour être interdénominationnel. On ne peut pas faire de la Pentecôte une dénomination. Il vous a envoyés pour être son peuple, Mais vous avez vu les belles grandes églises et la théologie. Vous vous êtes procuré beaucoup de grandes écoles et autre chose. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez uni le peuple de Dieu de nouveau avec l'organisation dont le fondement même est le catholicisme. Joli, de grandes églises, des gens bien habillés, le maire de la ville et tous les autres y vont, les mieux habillés, les mieux éduqués, des théologiens de haut niveau qui savent comment en arriver au point où tout le monde porte les vêtements les plus sophistiqués et le pasteur se tient bien en place. Qu'est-ce que c'est? Vous regardez aux choses que Dieu a condamnées et vous avez pris l'Église pentecôtiste. Dieu, que cela soit sur bande. Et l'avez unie à une organisation. Dieu n'a jamais voulu qu'elle soit unie et il la voulait séparer. Jamais unie avec le monde. Le même vieux démon qui a fait qu'Ève soit incrédule à la parole de Dieu et qu'elle fasse le mal est revenu et a pris les enfants de Seth et les a laissés voir ces belles femmes de Caïn et ils se sont unis à nouveau. Ils n'étaient pas des infidèles, ils n'étaient pas communistes. Non, non, c'était des croyants. Ils ont dit, peut-être que le Seigneur pourrait faire quelque chose. Ceci comme ça. Ils pensaient qu'ils faisaient ce qui était bien. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Balayer toute la chose. Il a dû tout balayer. Sous une fausse union, il a dû envoyer un déluge et les détruire tous. Le jugement est venu pour cette fausse union. Le jugement a frappé l'Éden à cause d'une fausse union. Maintenant, est-ce que le serpent avait une semence? Honte à vous! Une fausse union a apporté le jugement sur la terre pour Ève et Adam en Éden. Et une fausse union a apporté les flots du jugement de Dieu sur la terre parce que les filles de Caïn ont flirté avec les fils de Dieu et ils sont tombés dans le piège et se sont unis de nouveau ensemble. Vous y êtes. Une fausse union. Rien ne pouvait arriver. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout détruit, tout sauf le précieux Noé et sa famille. Ils se sont réunis. Et de nouveau après cela, après la mort de Noé, de cette famille spirituelle de Noé, la première chose qu'on a su, c'est que les enfants des hommes ont commencé à se regarder les uns les autres à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, nous ne sommes pas des infidèles, nous croyons tous en Dieu. Alors, ils ont pris quelqu'un comme conducteur, un grand archevêque du nom de Nimrod, et ils ont construit une tour. Ils n'étaient pas des infidèles, ils croyaient qu'il y avait un ciel, ils croyaient qu'il y avait un enfer, ils croyaient au jugement. Mais les enfants de Dieu, avec les filles des hommes, encore une fois, ils se sont fait une union. Faussement, ils ont construit une très, très grande cathédrale, une très grande organisation, et tous les autres endroits qu'il y avait à Babel devaient lui payer un tribut. Et ils ont dit, je vais vous dire ce que nous pouvons faire. Vous savez que nous sommes intelligents. Où ont-ils trouvé cette sagesse? Du diable. Exactement. Ils l'ont eu du diable, comme Ève l'a eu. Ils l'ont eu du diable. Alors, ils ont dit, nous allons nous construire une organisation, nous allons plaire à Dieu, et je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons avoir de petites marches d'escalier, nous allons monter, chanter, nous réjouir avec les anges et revenir ici en bas et vivre comme nous le voulons. Ce diable est toujours en vie, voyez? C'était contre les commandements de Dieu. Ils n'ont pas gardé ces commandements. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, ils ont construit une tour de Babel, encore dans l'erreur. Alors Dieu les a rendus confus et les a séparés. Dieu les a séparés de nouveau et il a envoyé le bon et le juste Abraham. Il a dit, je vais te prendre et faire de toi une nation. Dieu les a séparés. Sors du milieu d'eux, Abraham. Laisse tout derrière toi. Et Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il ait laissé tout derrière eux. Lot était la dernière chose. Sors, Abraham, sépare-toi de ces incroyants et je vais te prendre et faire de toi une nation. Je vais former un peuple qui va garder mes commandements. Je vais leur donner une autre chance. Ce bon vieil Abraham est allé séjourner dans un pays étranger. C'est ce que font tous les Abrahams. Ils séjournent dans un pays étranger. Comment? En croyant une promesse qui était impossible humainement parlant. Que pensez-vous qu'auraient dit les médecins modernes de Caïn ce jour-là? Pfiou! Oh là là, un vieil homme qui a 100 ans et qui va avoir un enfant d'une femme de 90 ans. Oh, quelle chose ridicule! Mais Abraham a cru la parole de Dieu. Et tout ce qui était contraire, il l'appelait comme si ça n'existait pas. Tous ces faux baptêmes, ces fausses sensations, ces fausses choses qui se passent aujourd'hui, dites que ce n'est pas là. Croyez la parole de Dieu et continuez à avancer. C'est seulement une pierre d'achoppement pour vous empêcher d'atteindre le véritable. C'est vrai, continuez d'avancer, les enfants. La parole de Dieu, Dieu garde sa parole. Peu importe combien de choses bidons le diable peut jeter sur le chemin, Dieu a toujours une vraie parole et il la garde. Abraham appelait tout ce qui était contraire faux. Romains, le chapitre 4, si vous le prenez en note, Abraham appelait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme si ce n'était pas. C'est vrai, il croyait en Dieu, il était fort, peu importe la faiblesse de son corps, combien ça semblait impossible que cela n'allait pas arriver, Abraham continuait d'y croire. Maintenant, il n'avait pas besoin d'aller s'agenouiller à l'autel et de dire, « Si ça n'arrive pas maintenant, je vais faire, je ne sais pas ce qu'il doit y croire ou pas. » Abraham est resté avec cela pendant 25 ans avant que ça arrive, mais c'est arrivé. Ça le fait toujours. D'Abraham est sorti Isaac, d'Isaac est sorti Jacob, de Jacob sont sortis les patriarches, des patriarches, ils sont allés en Égypte. En Égypte a grandi une nation. Puis après que sa nation ait grandi, sa réalisation, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a encore séparés. L'incrédulité et la foi ne peuvent pas marcher ensemble. Non, monsieur, il les a séparés à nouveau pour lui-même. Qu'est-ce qu'il leur a fait pour s'assurer qu'ils étaient conduits correctement? Écoute attentivement maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps, peut-être encore 15 minutes. Il les a conduits de près. Observez, il a suscité une nation, les a placés sous des tuteurs et ces choses. Il était battu, il pleurait, et ça continuait. Mais Dieu regardait d'en haut, il se souvenait de chaque promesse qu'il avait faite à Abraham. Un jour, il a pensé, qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quand il les a séparés? Il leur a donné une loi, il leur a donné un prophète, il leur a donné une colonne de feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh Dieu! Il a mis son Église en ordre. Une colonne de feu, l'esprit pour les conduire, un prophète qui leur dirait la vérité de sa parole. Ils étaient prêts pour le voyage alors. N'est-ce pas merveilleux? Ils sont partis dans le désert. Ils accomplissaient des miracles et des prodiges. Ont ouvert la mer rouge et ont appelé les fléaux de l'enfer sur Pharaon. Oh là là, une colonne de feu se déplaçait devant eux. Amen. Les conduisait la nuit et le jour. Alléluia. Un prophète fidèle à cette parole se tenait là, les gardant alignés. Amen. Il était prêt à prendre ses enfants. Alors, c'était la première fois qu'ils ont été appelés une église. C'était un type de ce qu'il allait faire dans les derniers jours. Nous y reviendrons dans une minute. Il les a appelés à sortir, leur a donné une loi, leur a donné sa parole, leur a donné un prophète, leur a donné un signe. Il les a envoyés dans le désert. Il les a séparés du reste du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu les jolies femmes de Moab, une église tiède avec des dieux et des déesses et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés après elles. Se sont mariés avec elles. C'est exactement vrai. J'imagine que ces jolies petites femmes moabites étaient vraiment belles. J'ai une prophétie à la maison et de ces jours, je vais la lire. Et vous pouvez vous demander pourquoi je frappe si fort sur les femmes comme je le fais. Il y a 30 ans, j'ai l'ainsi dit le Seigneur, il y a 30 ans, quand je suis entré dans le ministère, il m'a dit que la tendance des femmes deviendrait si immorale et imputée dans les derniers jours qu'elle allait être la chose la plus souillée de la terre. C'est vrai. C'est elle qui a commencé au début et Satan l'utilise à la fin. Et regardez ce qui se passe. Regardez à travers les années. Il a dit, elle va continuer à se déshabiller. Il a dit, il n'y aura plus qu'un tout petit groupe de ceux qui sont élus, qui sont prédestinés, qui vont y échapper. Quand cette vision est venue, cela m'a inquiété. J'ai pensé les femmes, j'ai ouvert la Bible dans Ésaïe, je crois au chapitre 5, et elle disait, la branche qui a échappé, les filles de Sion en ce jour-là, sera belle pour le Seigneur. Une femme m'a écrit une question l'autre jour, elle a dit, Frère Branham, ou non, c'était un homme, un ministre, il est peut-être ici ce matin, il vient juste de l'Ohio. Il a dit, nous voulons la même chose que vous, nous avons trouvé quelque chose sur vos banques qui n'est pas juste. Alors, Alors, Billy m'a apporté la lettre. Il a dit quelque chose sur vos bandes. Il a dit qui est très contradictoire, frère Branham, à la parole de Dieu. Et nous voulons dire la même chose. Il a dit une question que je veux vous poser. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 11, et il est dit cela concernant comment les femmes doivent se couvrir la tête et les hommes ne pas se couvrir. Il a dit, nous croyons cela. Les femmes devraient porter des chapeaux à l'église et les hommes devraient enlever leurs chapeaux à l'église. Il a dit, nous croyons qu'il faut couvrir la tête et ainsi de suite. Et il a dit une autre question, c'est que les gens viennent nous voir et disent que l'ange du Seigneur vous dit tout. Que chaque parole que vous dites vient de l'ange du Seigneur. Et frère Branham, c'est tellement difficile de lutter contre quelque chose comme ça. Il a dit dans mon église, il a dit, nous voulons dire la même chose. Maintenant, frère Branham, ne croyez-vous pas que vous étiez un peu dans l'erreur, là? Il répondit par écrit, mon précieux frère, je ne suis pas dans l'erreur. 1 Corinthiens 11 au chapitre 11 dit qu'une femme devrait se couvrir la tête. Et pourquoi? Puis le verset 15 dit que ses longs cheveux lui sont donnés pour la couvrir. Pas un chapeau! Cet esprit catholique a dominé l'Église assez longtemps. Ses longs cheveux, c'est ce qui la couvre. N'est-ce pas que la nature elle-même? Et regardez, puis la question revient. Quelqu'un me l'a posée il y a quelque temps. Je vais l'expliquer pendant que j'y suis. Il a dit, eh bien, la Bible dit qu'elle devrait avoir les cheveux longs à cause des anges. Qu'est-ce que les anges ont à voir avec une femme? Il dit, qu'est-ce qu'un ange? C'est un messager. Qu'est-ce que Paul dit? Si un vrai messager, un ange de Dieu vient, vous feriez mieux d'avoir les cheveux longs. Il va condamner la chose. C'est vrai. Combien on savent qu'un ange est un messager? Tout à fait exact. Un messager envoyé de Dieu va condamner cela. Il a dit, vous êtes mieux d'avoir les cheveux longs à cause des anges. Ces messagers envoyés par Dieu qui viennent, ils vont condamner cette chose. Oui, en effet, parce qu'un véritable messager de Dieu, un ange, est en contact avec Dieu et sa parole ne peut faillir. C'est tout à fait vrai. Saint Paul a dit là que même si un ange du ciel vient enseigner quoi que ce soit d'autre, qu'il soit maudit. C'est vrai. Maintenant, nous découvrons que c'est vrai, qu'elle devrait avoir les cheveux longs, c'est ce qui la couvre. Mais j'imagine que ces jolies femmes moabites étaient très belles. Elles auraient pu être arrangées comme certaines de ces Jézabelles modernes d'aujourd'hui. Mais cependant, pas toutes les femmes. Je pense qu'une femme authentique est un joyau. Dieu soit loué pour une vraie femme. Vous êtes la servante de Dieu. Mais une vraie femme est comme un vrai homme. Elles vont suivre la parole de Dieu, peu importe ce que dit le diable ou toute autre fausseté. Elles disent, notre pasteur a dit que c'est en ordre de faire ceci. Peu importe ce que votre pasteur a dit, si c'est contraire à la parole de Dieu, que sa parole soit un mensonge et garder la parole de Dieu. Peu importe quelle dénomination c'est ou qui il est, s'il a quelque chose à dire à ce sujet, dites-lui de regarder dans la parole de Dieu. C'est exact. Et comme nous pourrions continuer à voir Dieu qui les sépare, nous allons devoir nous arrêter un instant. J'ai quelques écritures ici. Je vais les laisser de côté pour arriver, me dépêcher d'arriver à la fin. Alors quand? Que s'est-il passé quand il a pris place là-bas, quand les femmes moabites, Dieu a dû les séparer de nouveau? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors Jésus est venu. Maintenant, nous en arrivons à quelque chose. Alors Jésus est venu, l'image exprimée de Dieu, la semence de la femme, conçue par Dieu lui-même, le grand architecte s'est construit un corps. Il n'avait pas besoin d'emprunter de bois à qui que ce soit, de la femme ou de l'homme. Il s'est construit une maison. Oh là là! Je pense à Étienne ce jour-là, quand il s'est levé, il a dit, « Vous, incirconcis de cœur et d'oreille, vous, aux cou raides, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont fait, vous les faites aussi. » Il a dit, Salomon lui a bâti une maison, mais cependant, le Très-Haut ne vit pas dans des maisons faites de main d'homme, mais tu vas préparer un corps. Il n'a pas eu besoin d'emprunter de bois nulle part. Hébreu, le chapitre 11, je crois, verset 2 ou 3, il est dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Les choses ont été faites à partir des choses invisibles. Dieu a juste dit qu'il y ait, et il y eut. Il n'avait pas besoin d'aller dire, « Madame la Lune, me prêteriez-vous un peu de bois? Madame l'Étoile, voudriez-vous me donner un peu de calcium? » Dieu ne fait pas ça. Il n'a pas eu besoin de dire, « Marie, tu me prêtes un neveu? Je veux faire un corps pour y habiter? » Dieu, le Créateur, a parlé. Elle était une mère sur le champ. Elle n'était pas une mère, elle était juste une femme qui portait sa semence. C'est vrai, souvenez-vous, elle n'était pas la mère de Jésus. Le monde dit cela. Trouvez-moi une place dans les Écritures où il l'a appelée sa mère. Maintenant, revenez à la parole. Mère de Dieu, honte à vous. Voyez, un jour, des gens lui ont dit, « Ta mère te cherche dehors. » Il a dit, « Qui est ma mère? » Il a regardé ses disciples. Il a dit, « Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère. » Elle n'était pas sa mère. Elle était un incubateur. Dieu aurait pu utiliser autre chose, mais il voulait prendre le pire et montrer ce qu'il pouvait en faire. L'élever, faire quelque chose à partir de rien, ça c'est Dieu. L'image exprimée est venue, Jésus, l'Immaculé, le Bien-aimé, le plus beau d'entre 10 000, le Lys de la Vallée, la Rose de Saron, oh, l'Étoile du matin. Qu'est-ce qu'il était? Pourquoi est-il venu? Écoutez attentivement maintenant, pour rétablir l'unité entre Dieu et l'homme. Oh, le voyez-vous, frère? Toutes leurs tours de Babel et toutes leurs autres choses là-bas n'ont pas fonctionné. Tous leurs fruits des jardins et tout le reste a déplu à Dieu. Dieu est donc descendu, a été conçu dans le sein d'une femme par lui-même. Il s'est fait un corps et est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, ni juif, ni des nations, mais Dieu. Il n'était pas juif. Il n'était pas des nations. Il était Dieu. Et les gens des nations représentaient tout autant pour lui, tout le temps. Seulement, il essayait de séparer les Juifs pour une nation. Il a essayé de tout faire pour la récupérer. La seule façon pour lui de l'établir, c'était de revenir à un individu comme il l'était au commencement. C'est comme ça aujourd'hui, à un individu, pas une dénomination, pas une organisation, pas un groupe de gens, mais à un individu. Remarqué pour rétablir l'unité entre Dieu et l'homme. Il était une véritable offrande pour le péché. Les brebis, les boucs, ainsi de suite, ne pourraient jamais enlever le péché. Mais la vie, parce que quand le sacrifice est tué et la vie d'un agneau, la chose la plus innocente, ne pouvait pas revenir, cette vie-là, sur le croyant, parce qu'il était un être humain avec une âme et la brebis n'a pas d'âme. Voyez? Il n'y a que l'homme qui a une âme. Dieu a mis, il a une forme animale, c'est vrai, mais il a mis une âme sur lui. C'est ce qui a fait différent des animaux. Il savait distinguer le bien du mal quand son âme est venue sur lui. Mais rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme et sa propre image, ensuite il est devenu une âme vivante. Vous voyez, il est devenu cela, sachant distinguer le bien du mal. Maintenant, remarquez. Mais maintenant, en cela, Jésus est venu et il était Dieu. Non seulement la vie d'un autre homme peut revenir sur un autre homme, mais la vie même de Dieu, faisant de lui un enfant de Dieu, le remettant dans la même union qu'il était avant la chute. Maintenant, nous en venons à la véritable unité. Quelqu'un m'a dit, « Frère Branham, n'êtes-vous pas unitaire? » Pas l'organisation unitaire, mais je forme une unité avec Christ, voyez, mais pas l'organisation unitaire. Il a payé la dette du péché. Bon, pour obtenir l'unité entre Dieu et l'homme, Jésus ne pouvait pas le faire tant qu'il était ici dans un corps de chair. Alors, il devait devenir l'offrande complète pour le péché, pour enlever la culpabilité du croyant, voyez, pour l'enlever afin que le Saint-Esprit puisse venir dans l'homme et ramener l'unité entre l'homme et Dieu. Voyez, il devait y avoir quelque chose à rétablir. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait rétablir? Quand le commandement de Dieu est accompli, est-ce qu'un ange pourrait l'accomplir? Il n'a pas de sang. Est-ce que Dieu aurait pu l'accomplir? Il n'avait pas de sang. Et Dieu s'est fait chair et sang pour pouvoir payer correctement la dette et enlever le péché, parce que c'est le seul moyen. Les tours de Babel les séparent partout sur la terre. Tout le reste, les organisations et ces choses ont échoué. De toutes les façons, elles s'embrouillent, le monde et tout le reste, mais ceci allait être une séparation totale. Gloire! Maintenant, je me sens religieux. Eh bien, je sens que je peux prendre mon texte et commencer à prêcher maintenant. Je commence tout juste à me réchauffer pour commencer ici. Il est temps que je m'arrête. Peut-être que je vais finir cela une autre fois. L'unité de Dieu et l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui comprennent, dites « Amen ». Voyez, c'est la seule façon pour l'homme de revenir dans son état d'origine, c'est que cette peine du péché soit payée. La peine du péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, le jour où tu auras cette liaison, c'est le jour où tu mourras. Et quand c'est arrivé, cela a rompu sa relation, la communion et tout pour l'homme, et elle ne pouvait plus revenir jusqu'à ce que cette peine soit payée. Et personne n'était digne de la payer. Et parce que tout le monde est tombé avec l'être humain, parce que toutes les créatures sont inférieures à l'être humain, et elle était tombée. Gloire! Oh, frère! Frère Marc, je ne t'avais pas vu assis là. Que Dieu te bénisse! Nous croyons cela, frère Mac. Mis sous la peine de mort, frère Mac était autrefois le pasteur ici au tabernacle quand je suis parti. Oui, maintenant, un autre bon vieux baptiste, missionnaire baptiste d'ici qui a le Saint-Esprit, voyez? Remarquez, maintenant, entrer dans l'unité avec Dieu. Donc, quand nous voyons ceci, nous voyons que la peine doit être payée et remarquez que la forme la plus élevée de la vie animale est un être humain et l'être humain est lui-même tombé. Alors comment un humain pourrait-il en sauver un autre? Ça a pris Dieu. Et Dieu, en esprit, ne pouvait pas mourir. Ainsi, Dieu a dû s'abaisser un peu plus bas que les anges. Hébreux chapitre 1, verset 1. Il a dû se faire plus bas que les anges afin de goûter la mort, pour payer la peine, pour ramener l'unité entre l'homme et Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse revenir. La dette du péché a été payée. Jésus a dû faire cela pour renvoyer le Saint-Esprit afin d'unir à nouveau les gens comme cela était dans le Jardin d'Éden. La dette a été payée quand Jésus est mort. Ça règle la question. Amen, frère. Si seulement je pouvais le faire pénétrer. Vous voyez? La dette est payée. Alléluia pour l'agneau. La dette est payée. Et tous les hommes et les femmes qui m'entendent ce matin ou qui m'entendront par la bande, votre peine est payée. Ne doutez plus jamais la parole de Dieu. Revenez à la parole. Il ne la croit pas. Il était la parole. Gloire! J'ai envie de crier. Honnêtement, la peine est payée. C'est terminé maintenant. Pas étonnant que les anges criaient, chantaient, les hymnes du ciel résonnaient. Oui, monsieur. La brebis perdue était retrouvée. Un moyen d'expiation était fait pour qu'il soit restauré de nouveau. Les eaux de séparation, la parole de Dieu qui la lave de son iniquité, car la parole est morte à ma place et a été ressuscitée de nouveau et est devenue prééminente dans ma vie, dans mon cœur. Amen. La peine est payée. C'est terminé. Nous sommes rachetés. Pas par une église catholique, bien que nous soyons le vrai catholique, le catholique apostolique. Oui, monsieur, pas catholique romain avec leur dogme, mais ils nient cette parole avec leur dogme. Tout est votre dogme, pas la parole. Méthodistes, baptistes, honte à vous! Ils aiment plus l'iniquité qu'ils n'aiment Dieu, aimant le plaisir, amateurs du monde, des plaisirs, des porcs d'abattoir pour l'enclos. Le diable envoie ses instruments là-bas pour vous étouffer avec ces choses comme Satan l'a fait dans le Jardin d'Éden. Eh bien, tous nos ministres ont reçu une formation. Ils ont le doctorat en philosophie, en droit. Ça ne veut rien dire du tout. Nier cette parole, c'est encore la rue du diable. Je vous l'ai prouvé par la parole ce matin. À vous de décider de partir à partir de maintenant. Les disciples même qui marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas d'unité. Non, ils se disputaient. Qui va devenir évêque après cela? Qui est le plus grand parmi nous? Ils ne peuvent même pas croire Jésus. Ils ne peuvent pas le comprendre. Tu parles par énigme. Dis-nous clairement ce que tu veux dire. Il n'y avait pas d'unité entre Jésus et les disciples, ni entre les disciples et Jésus, ni entre les disciples entre eux. Peu importe, cela vous montre simplement, frère. Écoutez attentivement maintenant. Je veux que ceci s'enfonce profondément au fond de votre cœur. Voyez? Dieu a un plan. En dehors de ce plan, peu m'importe la sagesse qu'il y a derrière, combien de millions de dollars d'édifices, combien d'écoles de théologie, combien d'hommes saints et de saints ceci et saints, cela ne fait aucune différence si une parole de la Bible de Dieu est niée, c'est du diable. Maintenant, je vous l'ai prouvé par la parole écrite de Dieu, du Nouveau à l'Ancien Testament, et je vais la ramener jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez bien vous asseoir avec moi quelques instants. Les disciples qui marchaient main dans la main avec Jésus, dormaient avec lui, mangeaient avec lui, ont vu ses miracles, étaient associés avec lui, aussi proche qu'un frère peut l'être, et pourtant ils ne l'avaient pas, ils n'étaient pas aptes à prêcher l'Évangile. Jésus a dit, ne prêchez plus, n'essayez même pas, attendez là-haut, dans la ville de Jérusalem, je vais vous envoyer sur vous la promesse qui vous a été faite, cela va vous unifier alors. Maintenant, Père, je prie pour qu'ils soient un, tout comme toi et moi sommes un. Et je, comme mon Père m'a envoyé pour prêcher l'Évangile, moi aussi, je vous envoie. Et le Père même, qui avait envoyé le Fils, est venu dans le Fils, l'unité en un. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si mes œuvres que je fais parlent tellement fort, vous êtes parfaitement sourds, muets et aveugles si vous ne le voyez pas. Oh frère, Il a dit, hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect des cieux, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Eh bien, est-ce qu'Ésaïe a parlé de toi? Vous avez des oreilles et vous êtes tellement sourds que vous ne pouvez pas entendre. Des yeux et tellement aveugles que vous ne pouvez pas voir. Eh bien, l'apôtre Paul a bien dit, dans les derniers jours, ils auront l'apparence de la piété et renieront ce qui en fait la force. Et écriture après écriture, ce qui se passerait dans ces organisations dans les derniers jours. Ensuite, ils se demandent pourquoi je crie contre ce système du diable fait de main d'homme. Voyez ces précieux enfants amenés par la ruse là-bas, comme des brebis qui vont à l'abattoir. Faites-les sortir, Seigneur! Oui, les disciples n'avaient pas d'unité. Ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Ils ont dit, à qui peut comprendre ces choses? Vous voyez, Dieu n'était pas en eux encore. Ils étaient juste associés dans la communion. Ils étaient juste associés avec lui. C'est ce que beaucoup de braves hommes font aujourd'hui. Ils ne buvaient pas, ils ne mentaient pas, ils ne volaient pas, ni rien, mais ils n'avaient pas cette unité avec Dieu. Ils n'étaient pas encore un avec Dieu. Vous voyez, ils ne pouvaient pas l'être. Oh, ils avaient fait des miracles, ils avaient chassé des démons. Ce n'est pas ça. J'ai lu un article dans le journal l'autre jour à ce sujet de chasser les démons. Les gens disent, oh frère, je te l'ai dit, c'est ça. Ce n'est pas ça. Un homme qui chasse un démon et il nie la parole de Dieu est un menteur. Oui, monsieur. Il dit qu'il chasse les démons. Il prétend faire cela. Il ne peut pas le faire s'il n'est pas avec la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Maintenant, ensuite est venue la Pentecôte, et Dieu les a unis de nouveau. Oh là là! Alors, ils avaient l'unité avec Dieu. Dieu était en eux. Maintenant, acte, si vous le notez, acte 4, 32. La Bible dit qu'ils étaient d'un même cœur, d'une même âme et d'un même esprit. Oh frère! Pourquoi? Ils avaient été restaurés à l'original de nouveau. La seule chose qui leur restait à se débarrasser, c'était une vieille ville où ils vivaient ici, un vieux corps appelé une ville ou un temple dans lequel ils vivaient ici, qu'ils devaient pourrir, car ça devait mourir et se corrompre. Mais en esprit et vie et en but et en vision et tout, ils étaient un avec Dieu. Oh, Adam, mon habit. Découragé. Ne laisse pas Satan te dire son mensonge encore. Ne laisse pas cela arriver. Ne laisse pas Satan te dire que la parole ne signifie pas ce qu'elle dit. C'est vrai. La parole signifie, oui, si pas, je parlais du baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, une révélation de cela vient. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'un groupe de gens a fait? Ils l'ont rassemblé ici et ont fait une dénomination. Ils ont fait une autre tour de Babel. La même chose. Ils l'ont renvoyé directement là-dedans. Certainement, Luther a fait la même chose. Wesley a fait la même chose. John Smith a fait la même chose. Alexander Campbell a fait la même chose. La Pentecôte a fait la même chose. Dieu traite avec des individus qui gardent sa parole. Le seul plan de Dieu pour amener les croyants à lui dans une véritable unité, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Alors voici comment. Vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai parlé en langue, j'ai crié, j'ai fait ceci. Si vous avez encore ce genre d'esprit et nié la parole de Dieu, vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous n'avez pas l'esprit. Si vous vous essayez et essayez d'écouter la vérité, à être prêché et vous la vérifiez dans la Bible et que vous voyez que c'est la vérité et qu'ensuite vous refusez de la faire, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Peu importe combien vous avez parlé en langue, combien vous avez crié, combien d'églises vous avez fait partie ou combien de fois vous avez été baptisé ou quoi que ce soit d'autre. La parole est vérité. C'est ce qui confirme la vérité. Vous avez toutes ces autres vérités et puis avec la parole, amen, alors vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Est-ce que comment le Dieu même qui a écrit la Bible peut-il changer d'avis et substituer quelque chose d'autre à sa parole. Vous, les catholiques, qui avez dit que Pierre a été enterré dans votre église et que son esprit vous donne le droit de remettre les péchés aux autres, comment Pierre, un juif, aurait-il supporté qu'il y ait des idoles dans l'église? Comment Pierre aurait-il pu refuser de dire que le baptême du Saint-Esprit est venu et qu'il a parlé en langue et toutes ces choses puissantes qu'il a fait et changer d'avis de dire, prendre une petite hostie que Dieu est dans cette hostie? Oh, c'est de l'ignorance spirituelle. Eh bien, maintenant, vous, les protestants, c'est la même chose. Vous avancez, serrez la main du prédicateur et vous dites, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et vous repartez et vivez n'importe quel genre de vie et continuez à vivre avec le monde. Une autre tour de Babel. Nous arrivons maintenant à la fin. Observez. Dieu a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il est celui qui fera l'unité entre Dieu et l'homme. Voyons ça. Maintenant, voyons. Maintenant, je veux toute votre attention pendant les 5 prochaines minutes. Servez. L'homme, soumis au plan du diable, a essayé de faire de l'Église une dénomination dans l'unité. Ils ont essayé de faire une d'amener l'Église dans l'unité. Vous savez cela par l'instruction, par la dénomination. Ils essaient en ce moment même, le Conseil mondial des Églises essaie de réunir tous les catholiques et les protestants ensemble pour qu'ils ne fassent qu'un. Qu'est-ce que c'est? Un plan du diable. Vous dites, vous êtes vraiment petit pour dire ça. Je suis vraiment petit, mais la parole de mon Dieu est très grande, je vous le dis. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Ce n'est pas celui qui le dit, c'est lui qui l'a dit en premier. Je ne fais que dire ce que lui a dit. Je confesse sa parole. C'est sous la coupe du diable. C'est prouvé dans la parole ici ce matin même devant vous que c'est du diable. Toutes ces organisations le sont. Les hommes soumis au plan du diable essaient par la dénomination de faire en sorte que les gens soient dans l'unité. Vous tous, venez adhérer aux assemblées de Dieu, adhérer aux unitaires, adhérer à l'Église de Dieu, adhérer aux méthodistes. Nous sommes tous un bande d'hypocrites. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et la parole de Dieu est agitée juste devant vous, et vous avez peur de l'attaquer. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas, alors, si vous êtes avec Dieu? Pourquoi ne faites-vous pas les œuvres de Dieu? Comment pouvez-vous avoir cette apparence et aller partout et le renier en appelant même les véritables œuvres de Dieu un Belzébul? Ça se voit, vous, bande de membres d'Église instruits. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. C'est vrai. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Certainement. Pourquoi personne ne l'attaque? Vous savez que Dieu est derrière cela. Dieu va agir avec sa parole. L'homme fait cela. Il construit une autre tour de Babel. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de montrer. Regardez ce Conseil mondial des Églises maintenant. Les anglicans, les catholiques romains, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, et tous ceux qui sont unis ensemble, la science chrétienne, et bon nombre des cultes qui nient même la naissance virginale, qui nient la divinité de Jésus, font de lui trois personnes. Essaient d'adorer un trois Dieu, nient la naissance virginale. Certains d'entre eux nient le sang. Certains d'entre eux nient ces miracles, tout le font. Et ensuite, il essaie d'unir de telles choses ensemble. Comment pouvez-vous le faire? C'est une tour faite de main d'homme. Elle va tomber comme Babel est tombée. Mais Dieu a dit, pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est comme ça que je vais unir mon Église. Pas par l'organisation, pas par l'instruction, pas par les théologiens, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je rassemblerai mes brebis. Oh là là! Et quand il va le faire, qu'est-ce qu'il va arriver? Et ces signes vont rendre témoignage de la même chose. C'est comme ça qu'Israël pouvait le voir avant qu'il ne se mêle à Moab. Il y avait une colonne de feu au-dessus d'eux. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage, le même genre de témoignage. Mais après qu'ils se soient dissociés ainsi d'avec Dieu et qu'ils aient séparé leur unité entre eux et Dieu et qu'ils se soient liés à Moab et les autres, la victoire a complètement échoué. Ils sont restés dans le désert pour 40 années de plus jusqu'à ce que Dieu suscite un autre groupe pour traverser et accomplir son plan. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais regardez, mais quand Dieu réunit une église par son esprit, ils auront des signes du Dieu vivant parmi eux. Quel genre de signes? Quand Dieu a séparé Israël de l'Égypte, Dieu a donné à Moïse et à Israël le signe d'une colonne de feu. N'est-ce pas? Un prophète. Lorsqu'il a séparé Abraham de Lot, un ange est venu à lui qui pouvait discerner les pensées et les intentions du cœur. Un signe. Alléluia. Maintenant, ces dénominations qui se sont retrouvées dans cette église, qui essayaient de faire une unité comme en Égypte, comme là-bas, en Éden, et ainsi de suite, elles sont sous cette grande influence. Mais regardez, je veux vous demander quelque chose. Quand Dieu a séparé Israël, il leur a donné un signe surnaturel, une colonne de feu. Il leur a donné un prophète. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Que fait-il à chaque fois? Montre-moi un prophète désigné. Parmi Dieu, parmi eux. Il rassemble son Église par des apôtres, des prophètes. des docteurs et des évangélistes. Alléluia, vous y êtes. Une église, encore une fois, comme il a appelé Israël à sortir, je vous avais dit que j'y reviendrais. Oui, monsieur, aucun prophète désigné par Dieu parmi eux. Non, monsieur, comme il y en avait avec Israël et les autres, qu'est-ce que c'est? Encore une tour du diable. Bon, la venue est si imminente, la seconde venue de Jésus, il rassemble ses élus. Je crois cela. Oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Où se trouve le cadavre? Là s'assembleront les aigles. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Il a son unité, sa véritable unité. Il se montre parmi eux. De toutes les dénominations, il rassemble ses élus de toutes sortes d'églises, de partout. Il fait sortir ses enfants, conformément à sa parole. Quoi? Maintenant, la venue du Seigneur Jésus est si imminente, la venue du jugement, qu'il appelle ses élus à être en unité avec lui-même, avec le même genre de ministère que lui avait. Vous savez comment j'ai montré dans les âges de l'Église ici, il n'y a pas longtemps, que la grande tour qui a été construite, appelée la pyramide, mais la pierre fêtière n'a jamais été posée dessus. Vous vous souvenez comment les luthériens sont venus, puis les wesleyens en minorité, et enfin la Pentecôte, et maintenant ce qu'il fait, il en appelle de ceux-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les élus à sortir pour faire les luthériens. Il a appelé les élus à sortir des luthériens pour faire les wesleyens. Il a appelé les élus à sortir de cela pour faire les pentecôtistes. Maintenant, il appelle les pentecôtistes élus pour que la pierre fêtière vienne dessus. Exactement le même genre de ministère qui s'oppose dessus, qui appelle ses enfants à sortir de toutes les dénominations et de tous les milieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé avec eux de vrais docteurs, de vrais prophètes qui restent avec sa parole, la Bible. Mes brebis entendent ma voix. Que Jésus a dit, si c'était sa voix à l'époque, c'est sa voix maintenant. Tout ce qui est contraire à cette voix n'est pas de la nourriture de brebis. Ils ne suivront pas cela. Oh, frère, de l'Est, de l'Ouest, de toutes les dénominations, de toutes les organisations, ils sont venus de l'Est et de l'Ouest pour se rassembler. Nous allons festoyer avec le roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage brillant d'un amour divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Jésus reviendra bientôt, alors nos peines finies. Alléluia. Et si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, alors seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Mais quand notre Seigneur dans la gloire viendra, nous le rencontrerons dans les airs. Alléluia. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Avec des docteurs envoyés par Dieu qui vont s'en tenir strictement à la parole, à la véritable Église et qui ne changeront pas un iota, quoi qu'en dise une organisation. Ils n'en sont pas rattachés à ça. Des prophètes, pas qui font semblant de croire. Soi-disant, mais un authentique prophète à l'insu du Seigneur. Il est en droit dans le mille chaque fois. C'est ce qu'il a envoyé dans son Église. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Qui croit la parole, pas le credo, pas le dogme, mais la parole. Et en faisant cela, il se manifeste en eux, en confirmant sa parole, en faisant que la même vie qu'il a vécue par le passé vive de nouveau. Il fait s'accomplir sa parole. Oh là là. Écoutez attentivement, 1 Corinthiens 4, 20 dit, « Le royaume de Dieu est sa parole rendue puissance. » Si vous voulez noter ça, 1 Corinthiens 4, 20, « Le royaume de Dieu est la parole de Dieu rendue puissance. » Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il est en vous. Le royaume est en vous. Et quand la parole entre là, à l'intérieur, qu'est-ce que cette parole commence? Elle se transforme en puissance. En lui faisant dire exactement ce qu'elle a dit. Vous ne pouvez pas dire « elle dit ceci » quand elle dit ceci et faire en sorte que cela fonctionne. Vous devez dire la même chose que ce qu'elle dit. Cela fait une confession, non pas dire « eh bien, c'est un peu raffiné ici, je vais avoir plus de sagesse, je vais être dans une meilleure position par ici. » Vous restez avec la parole, voilà, voyez, et elle la met en puissance. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, non, je vous demande pardon. » Ce n'est pas ce qu'il a dit là. Il a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Si vous demeurez en moi et ma parole en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et ma parole en vous, qu'est-ce que c'est? Vous devez suivre la parole vous faire tuer. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, mes amis, ont reçu le Saint-Esprit, mais nous avons reçu juste assez le Saint-Esprit en nous pour nous amener à un endroit où nous ne voulons pas mentir, nous ne voulons pas voler, nous ne voulons rien faire. Mais Dieu veut remplir chaque fibre de son Église. Il veut remplir votre pensée. Il veut remplir votre esprit. Il veut remplir chaque parcelle de vous, simplement vous rendre complètement, totalement mort à vous-même ou à votre pensée, juste tellement abandonné en Dieu que sa parole vit simplement à travers vous. Vous ne connaissez rien d'autre que la parole de Dieu. Restez simplement avec sa parole. C'est la vie. Mes paroles sont vie, a dit Jésus. Il est placé avec eux, les docteurs qui croient la Bible, les prophètes qui disent la vérité, qui disent, démontrent la même prophétie qu'ils ont toujours faite au fil de l'âge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prouve lui-même qu'il est vivant parmi eux, confirmant sa parole. Sa parole, le royaume de Dieu, est la parole de Dieu rendue puissance. Alors que ces dénominations s'appuient sur des raisonnements humains et des raisonnements humains maintenant. Écoutez attentivement, et nous ne devons pas nous appuyer sur des raisonnements humains. Proverbes chapitre 3, verset 5 a dit, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Voyez, ne le faites pas, peu importe ce que la parole de Dieu semble être. Vous dites, « Eh bien, il semble que c'est tout aussi bon de cette façon. » Ce n'est pas cela, c'est la parole de Dieu. Prenez-la comme il l'a dit. Ève a dit, Satan a dit à Ève, « Je sais que Dieu a dit cela, mais ça ne veut vraiment pas dire ça, ça veut dire ceci. » Et elle l'a cru. Elle l'a cru. Cela a brisé l'unité, cela a brisé la communion, cela a brisé l'union, cela a brisé le monde, cela a brisé la vie, cela a tout brisé. Celui qui est incrédule à une seule parole de la parole de Dieu, cela brise toute la communion et tout. C'est vrai, nous le croyons ou nous ne le croyons pas. Tenons-nous-en à elle. Dieu l'a dit, alors tenons-nous-en à elle. Je dois sauter beaucoup de choses ici parce que le temps est déjà écoulé. Comme autrefois, autrefois, quand l'homme a fait cela, cela a apporté le jugement de Dieu sur le monde. La tour de Babel, l'union des enfants de Caïn avec les enfants de Seth, a apporté le jugement. Cela apporte toujours le jugement de Dieu au monde. Vous voyez? Oh, la vraie unité avec lui s'élèvera au jugement au-dessus de cela, comme Noé l'a fait dans ce jugement avec sa famille. Noé le juste et sa famille sont passés au-dessus des jugements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en sont allés. Frère Livelle, si vous pouvez le saisir, ceci, le voici, c'est la seule question sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Il croit que l'Église va passer par le jugement. Je ne vois pas cela, je ne crois pas cela. Noé n'est pas passé par aucun jugement, il est passé au-dessus des jugements. Abraham n'a jamais connu le feu, il était hors du feu. Israël n'était pas dans le jugement d'Israël. Il était séparé, hors du feu, hors des jugements. L'Église va s'élever au-dessus du jugement dans l'arche du Saint-Esprit, s'élever de la terre. Cette affaire du Conseil des Églises n'est rien d'autre dans le monde qu'une agitation de la Vierge folle pour qu'elle soit laissée ici sur la terre pour avoir choisi l'Antichrist. Mais la vraie Église de Dieu va flotter comme le vieux Noé l'a fait et va continuer dans la gloire aussi sûr que je me tiens ici. C'est pourquoi ils les rassemblent ensemble. C'est ce que la voix proclame aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il en rassemble un de Los Angeles et un de Philadelphie et un de Géorgie et ainsi de suite. Il les rassemble ensemble, son peuple qui est prêt à croire la parole du Dieu vivant. Comme il en fut au temps de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, alors qu'un petit nombre furent sauvés, un très petit nombre. Très bien, notre arche du Saint-Esprit va flotter juste au-dessus des jugements de Dieu, parce que nous sommes déjà jugés alors que nous confessons Jésus et il a pris notre jugement. Ces dénominations, cependant, sont si têtues. Elles sont comme Ève, elles voulaient sa sagesse, peu importe ce que disait la parole de Dieu. Nimrod voulait sa tour, peu importe si c'était scripturaire ou non. Il était têtu. Ève connaissait mieux. Seth savait mieux faire que de tomber amoureux de ces belles femmes. Israël savait mieux faire que d'aller là-bas, dans cet adultère. Vous aussi. Mais certains sont si têtus. Écriture ou pas. Béni soit Dieu, ma mère était presbytérienne, je vais l'être aussi. Continuez. Continuez, c'est la seule chose que vous puissiez faire, alors. Que Dieu soit miséricordieux envers votre âme pécheresse. Comment allez-vous y échapper alors que vous savez que c'est la vérité? Et si vous voyez la parole de Dieu et que vous ne pensez toujours pas que c'est la vérité, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre discernement spirituel, c'est tout à fait vrai. Regardez d'un bout à l'autre du pays et voyez où ces choses se produisent. Nous sommes au temps de la fin, mes amis. Avons-nous traversé les âges de l'Église et savons-nous ce qui va se passer à l'âge de l'Église de Laodicée? Ne venons-nous pas de passer par là? Voyez ce que je veux dire? Nous sommes au temps de la fin. Dieu rassemble les élus des quatre vents de la terre. Il a dit qu'il enverrait des anges et les rassemblerait, n'est-ce pas? Rassemblez-les! Séparez-les de l'ivraie. Amen! L'ivraie sera brûlée par le, pas le blé, c'est vrai. Mais ils sont têtus, qu'ils l'aient ou pas, ça ne fait aucune différence. Oh, mais les élus de Dieu ont reçu l'ordre de sortir du milieu d'eux. Séparez-vous, que Dieu a dit, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à leurs choses mondaines, et je serai un père pour vous, ou Dieu, et vous serez mes fils et mes filles. Ne soyez pas sous un même joug que les incroyants, mais sortez de là! Dieu veut une séparation avec le monde. Il veut être en union avec vous, lui-même, et aucun stratagème fait par les hommes d'une organisation, d'une dénomination, ni aucune théorie faite par les hommes ne pourra jamais tenir. Il faudra Dieu, le Saint-Esprit en vous, pour vous unir à Dieu. Et comment savez-vous que vous l'avez? Le Saint-Esprit qui a écrit la parole va témoigner de chaque parole et les mêmes choses que le Saint-Esprit a faites dans l'Ancien Testament, il va les faire dans le Nouveau Testament. Il en fera de même maintenant, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous n'êtes pas sous le joug des organisations et du monde. Vous n'êtes pas sous leur joug. Ne vous mettez pas sous leur joug, mais sortez du milieu d'elles. Vous êtes sous le joug de Christ. Amen. Être sous le joug du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait des églises, une autre semblable à la tour de Babel. Ils auraient l'apparence de la piété et renieront la parole de Dieu. Et la puissance de sa parole. Et qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Nous devons appartenir au royaume avant de pouvoir être sujet du roi. Combien savent cela? Dites Amen. Eh bien, comment entrez-vous dans le royaume? Le royaume de Dieu est la parole de Dieu rétablie dans la puissance. Amen. Rendue puissance qui enlève le péché, qui donne des signes. Quel genre de signes? Et si c'est la même parole qui a fait sortir Moïse, cela va produire le même signe, la même chose qui a séparé Lot, le tiède. Maintenant, nous savons que Lot était tiède, et Jésus a dit que ce sera le signe du temps de la fin. Lot, le tiède, assis là-bas, il était religieux, bien sûr, lui et sa femme, et il appartenait à toutes sortes de groupes. Il était le maire de la ville, et oh, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il était très religieux, il pouvait divertir les évangélistes, et eux tous sont passés, il était bien comme cela. Mais oh, mon frère, il n'était pas cet élu. Regardez ce qui s'est passé. Pourquoi? Le même Dieu qui s'est séparé, qui est venu à Abraham, il lui a montré la confirmation de sa séparation. Oh Dieu! Comment j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous le montrer? Dieu a montré à Abraham, étant donné qu'il s'était séparé, il lui en a montré la confirmation. Qu'il était avec lui et qu'il était au milieu d'eux. Et Jésus a dit que la même chose se produira dans les derniers jours. Abraham n'était pas une nation. Il était dans la minorité, mais Dieu était avec lui. Il l'avait séparé. À ce moment-là, nous sommes censés nous séparer dans ces derniers jours. Et si Dieu a donné un signe à Moïse, à Israël, un prophète oint, une colonne de feu, il a donné un signe à Abraham, et il a donné un signe à Israël, il a donné un signe aux disciples, même signe à chaque fois, même signe, la colonne de feu. Paul, quand il était en route vers Damas, voilà qu'une colonne de feu a brillé devant lui, cela l'a aveuglé et l'a fait tomber à genoux. Personne d'autre ne l'a vu. Tout le monde se tenait là, ils ne l'ont pas vu. Et une voix a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il a dit, « Seigneur, qui es-tu? » Il a dit, « Je suis Jésus. » Un signe! Et qu'est-ce qu'il était? L'apôtre pour les gens des nations. Amen. Voici au temps de la fin. Venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préparons pour cet enlèvement. Nous nous préparons pour... Nous nous tenons tranquilles pendant quelques minutes jusqu'à ce que chaque fibre soit remplie du Saint-Esprit. Ensuite, elle va monter. Oh là là! Il appelle son peuple à se rassembler à lui, dans la vraie unité avec lui-même, parce que c'est son un seul Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés individuellement dans un seul corps pour former collectivement le corps de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, vivant avec son esprit dans notre chair, sert l'Église et fait les mêmes choses qu'il a faites comme un insigne pour le monde que nous sommes dans les derniers jours, se préparant pour l'enlèvement. Oh, je l'aime, pas vous? J'ai encore un livre ici, mais je ne peux plus continuer. Il est trop tard. On pourrait le prendre une autre fois. Nous sommes à la fin. L'unité. Êtes-vous aussi unis avec Dieu? C'est comme ça que vous allez devoir être. Oui, nous allons devoir être un avec lui jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Alors Christ, sa propre pensée en vous, va reconnaître chaque parole qu'il a écrite. Ça l'a fait dans les apôtres. En dispensant droitement l'Écriture, qui est la vérité. Voyez, le Saint-Esprit, si c'est la vérité, alors il va rendre témoignage en apportant le même signe qu'il a donné à Moïse, le même signe qu'il a donné à Abraham, le même signe qu'il a fait par Christ, le même signe qu'il a fait par Paul. Nous sommes au temps de la fin. Il a dit que ce serait le cas. Nous sommes au temps de la fin. L'Église, collectivement, est en train de se rassembler en union, un ici et un là, qui se forment. Il a dit, il y en aura deux dans un champ, j'en prendrai un. Un seul, regardez, deux dans un champ. Ça, c'est le jour, la récolte. Je vais en prendre un et en laisser un. Il y en aura deux dans un lit, de l'autre côté du monde. J'en prendrai un et j'en laisserai un à la venue du Fils de l'homme. Et c'est si imminent, c'est si proche. Ne fais pas ça, ne le fais pas. Adam, Adam, Ève, Adam, laissez-moi crier vers vous. N'écoutez plus un mensonge du diable. Restez avec la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Restez avec sa parole. Se séparer d'elle, c'est rompre votre communion avec Dieu. L'unité de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que ce n'est pas en accord avec la parole, alors vous n'êtes pas en unité avec Dieu. Ceci est l'unité de Dieu. Quand vous, l'esprit que vous avez, est d'accord avec cette parole et manifeste cette parole et fait agir cette parole de la même manière qu'elle l'a fait là-bas, disons-le ensemble. L'unité avec Dieu est d'avoir l'esprit de Dieu en vous, en accord avec la parole, toute la parole entière, et de la faire se manifester en puissance. Vous voilà, c'est l'unité avec Dieu. Quand cette puissance agit en moi, agit en vous, nous sommes un. Amen. Tranquille. Quand la puissance du Saint-Esprit en moi agit en vous, il n'y a pas de désaccord. La parole est là. Elle agit. Amen. Cela fait d'elle ce qu'elle est. Dieu fait chair en vous par sa parole. La parole rendue puissance parmi vous, chaque parole. Maintenant, rappelez-vous, le diable prend une grande partie de cette parole, près de 99% de cela. 99 centièmes et 99% de ces centièmes, il va l'amener exactement de la bonne façon, mais ensuite, il va s'en éloigner ici, et c'est celui-là qui cause la mort, juste là. Ça brise la chaîne en plein milieu, vous tombez. Chaque parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole. Il ne vivra pas par quelques-unes des paroles de Dieu, ni par 99% de la parole de Dieu, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, l'homme vivra par cela. Satan l'a amené là-haut et a dit, il est écrit. Vous voyez, comme il a dit à Ève, il est écrit. Il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Il a dit, il est écrit, il donnera des ordres aux anges à ton sujet. La Bible le dit. Mon gars, c'est un érudit. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ils ont dit, nous avons l'Écriture, Actes 19. Nous avons été baptisés par Jean. Paul avait quelque chose d'autre. Il a dit, ça ne marche plus, voyez. Jean a seulement baptisé, n'a pas renié la parole de Jean. Il a dit, je vais vous dire ce que Jean a dit. Jean a dit qu'il baptisait pour la repentance, pas pour la rémission des péchés. Le sacrifice n'avait pas été tué, voyez. Il a dit, il baptisait pour la repentance en disant que vous deviez croire en celui qui devait venir. Et quand ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, rempli de la parole, leur a imposé les mains. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue, à magnifier Dieu. À quel moment? Oh là là! Combien de personnes comptait l'Église? 12. Oh, Dieu n'agit pas dans le grand nombre, il agit dans les cœurs honnêtes. Ayons ce genre de cœur. L'aimez-vous? Prions. Oh, mon errant bien-aimé, as-tu regardé les filles de Moab? Ou as-tu vu les filles, je parle des églises, de Caïn? À quel point elles se sont éloignées de la parole? As-tu, mon cher ami, remarqué en ces derniers jours que ces choses doivent arriver? Avez-vous remarqué récemment comment la parole de Dieu est en train de se manifester? Comment le réveil qui avait autrefois s'est calmé, il ne reste plus grand-chose? Qu'est-ce que c'est? C'est le calme avant la tempête. Les jugements sont prêts. Avez-vous remarqué ces choses? Avez-vous comparé l'écriture sur écriture, parole de la Bible sur parole de la Bible, évidence sur évidence? Avez-vous comparé la parole de Jésus par laquelle il a dit que le diable, dans les derniers jours, se serait si proche de la vraie chose au point que si c'était possible, il séduirait tout le monde, sauf les élus, celui qui est élu? Pensez-y, cet enseignement biblique va être si proche. Oh, nous croyons au Saint-Esprit, béni soit Dieu à jamais. Nous avons le Saint-Esprit, nous parlons en langue pour ensuite se retourner et renier la parole. Oui. Voyez, il séduira même les élus si c'était possible. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas en règle avec Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui est malade ou affligé, il y a des mouchoirs et ces choses posées ici, je vais prier sur eux. Peu m'importe ce dont vous avez besoin. Chaque promesse dans le livre vous appartient. C'est à vous. Maintenant, je vous ai apporté la parole. Je l'ai apporté de la Genèse jusqu'à ce jour où nous vivons. Juste en citant les passages et en vous les montrant. Plusieurs centaines de passages que j'aurais pu prendre en plus de cela. Je n'ai pas le temps. Mais sûrement qu'avec cela, vous pouvez voir que cette question d'organisation est réglée. C'est une fausse conception du diable qui essaie d'organiser l'homme avec l'unité de leur propre esprit et de leur propre pensée. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous unit à Dieu pour ne former qu'un. Et le Saint-Esprit s'accorde avec la parole de Dieu. Voyez, la Bible dit, Jésus a dit qu'ils allaient même le confesser. Voyez, séduiraient même les élus si c'était possible. Voyez où nous en sommes? Maintenant, prenez cette parole de Dieu dans cette main de foi. De quoi avez-vous besoin ce matin? Vous avez besoin d'un baptême d'eau au nom de Jésus-Christ? Le baptiseur est ouvert. Vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit? Il essaie de frayer un chemin pour entrer en vous. Vous avez besoin de guérison? Eh bien, le Saint-Esprit lui-même, la parole qui a été rendue puissance, est ici maintenant. La puissance même du discernement qui regarde cet auditoire ici en ce moment et qui voit cette lumière tourbillonner comme une lueur. Vous ai-je déjà dit quelque chose de faux? L'ai-je fait? Comme le prophète l'a dit à Israël avant qu'il élise un roi selon l'homme, il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose? Ai-je déjà pris votre argent? Suis-je déjà venu vous supplier pour de l'argent? Et me promener un peu partout et vivre dans de grands palais et construire de grandes choses et vous prendre votre argent? Vous avez déjà demandé un sou? Jamais. Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur que Dieu n'a pas accompli? Ai-je déjà dit en son nom quelque chose qui n'était pas vrai? Vous avez déjà dit une vision dans l'auditoire sans que la personne ne se lève, une inconnue ou quoi que ce soit, sans qu'elle ne dise « c'est la vérité »? Vous avez déjà dit quelque chose de faux? Alors, laissez-moi vous dire maintenant. Ainsi dit le Seigneur. Recevez le Saint-Esprit, l'Esprit qui va mettre la parole de Dieu dans ses mains de foi, se déplacer là-bas. Le royaume entier vous appartient. Il est à vous, les enfants. Pourquoi êtes-vous venus de la Géorgie, de l'autre bout du pays, de l'Ohio, du Kansas, de partout, pour une petite réunion? Je crois que la bande est arrêtée, donc je peux dire ceci. Voyez, pourquoi venez-vous comme ça? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Qu'est-ce que c'est? Je vois des gens ici de l'Arkansas qui viennent de centaines de kilomètres. Hier soir, en arrivant de Kansas City, un petit frère polonais qui était là en arrière a dit, « Frère Branham, depuis la première fois que j'ai entendu parler de vous là-bas au Canada, il y a bien des années, des choses que vous avez vues et faites, je les ai vérifiées dans les moindres détails, d'un côté et de l'autre, d'un bout à l'autre. » Il a dit, « Pas une seule ne s'est avérée fausse. » C'est probablement un polonais catholique, et le voici qui vient, il prend les bandes, il sort, il les fait jouer, il rencontre l'opposition, des ministres qui devraient être avec moi et nous aider, mais qui renie ce qui en fait la force, renie la vérité de la parole et prétendent avoir le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que j'étais un prophète, c'est vous qui l'avez fait. Mais s'il en est ainsi, alors d'où vient la parole du Seigneur? Comment savoir si c'est vrai ou pas, à moins qu'il y ait quelque chose qui pour le confirmer? C'est la parole de Dieu ici, la parole écrite. Et ensuite, si la parole écrite est confirmée, alors c'est Dieu dans cette parole qui confirme cette parole. Paul a dit, « Suivez-moi comme je suis Christ. » Maintenant, si vous avez besoin de Dieu pour la maladie, pour le salut, pour vous débarrasser, certains d'entre vous, les femmes, qui n'ont pas assez de grâce pour laisser pousser leurs cheveux, certains d'entre vous, les hommes, qui n'ont pas assez de grâce pour cesser de fumer la cigarette. Certains d'entre vous, les prédicateurs, qui n'ont pas assez de grâce pour accepter la vérité du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Certains d'entre vous qui êtes malades et prêts de mourir. Pourquoi ne pas prendre cette parole ce matin? Je vais vous le dire tout de suite, elle est faite chair parmi nous. Prenez cette parole dans votre main. Voici une photo sur le mur de l'ange du Seigneur. C'est celui-là même qui a conduit les enfants d'Israël, celui-là même qui a rencontré Paul, celui-là même qui était en Christ, et le même Saint-Esprit est en vous, vous unis pour ne faire qu'un. Qu'est-ce qui fait de nos cœurs s'unissent sur des centaines de mille? Il n'y a rien de comparable dans le pays. Ils viennent à la parole. Il y a une source remplie du sang, les veines d'Emmanuel, où tout incrédule plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Depuis que par la foi j'ai vu ce flot que tes blessures ont pourvu pour moi, l'amour qui m'a racheté a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Notre Père Céleste, il y a un tas de mouchoirs posés ici, des gants, ils vont peut-être partir par le courrier. Je ne sais pas qui les a mis ici, peut-être Billy, peut-être des gens ici dans l'auditoire. Je ressens simplement de faire ceci maintenant, Seigneur. Je n'ai rien à apporter, rien en moi en tant qu'être humain. Je ne pourrais pas compter sur ma propre compréhension humaine. Je ne comprends pas pourquoi c'est ainsi, mais j'ai fait ce que tu as dit. Ils prenaient sur le corps de Paul des mouchoirs et des linges, et les mauvais esprits quittaient les gens. Ce n'était pas parce qu'il était un grand homme, c'était parce que Dieu était avec lui en parole et en puissance. Il n'a jamais consulté les apôtres, mais ils ont découvert quand ils se sont rencontrés que le même évangile, la même façon de baptiser, les mêmes choses qu'ils faisaient étaient exactement pareilles. Maintenant, je demande, Seigneur, pour ces gens précieux qui te croient, que tu les guérisses, ceux dans l'auditoire, guéris-les, Seigneur. Que leur foi parvienne à s'emparer de cette parole en ce moment et disent, tumeur, maladie, mal, tu ferais aussi bien de partir, je tranche avec l'épée de Dieu, je crois, ma foi est forte, j'enfonce l'épée profondément, hors de mon chemin, je me lève de mon siège pour être guéri, je pose ma main sur mon père, sur ma sœur, sur mon enfant, sur mon voisin, je crois. Ta parole est vérité. Je suis en unité avec toi. Les œuvres que tu as dit, que tu as faites, nous les ferons aussi. Seigneur Dieu, je crois chaque parole. Et je m'avance. Je m'avance pour la réclamer, pour m'en emparer ce matin. Ô Dieu, comme je pourrais penser à lorsque l'Église était en chemin, quand Moïse a eu un peu peur là-bas à la mer, il a commencé à crier au Seigneur. Le Seigneur a dit, « Pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi cries-tu à moi? Parle et avance! » Ne t'ai-je pas commissionné pour faire ce travail? Parle! Parle quoi? La parole de Dieu, elle est en toi. Parle et va de l'avant. Ne crie pas à moi, avance. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, je viens au nom du Seigneur Jésus. Je viens brandissant cette épée de foi, revendiquant l'unité de Dieu et de l'homme par le Saint-Esprit, par la miséricorde et le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Je défie tout démon qui allie quiconque de quelque façon dans ce bâtiment, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, d'un homme ou d'une femme. Je défie chaque maladie, je défie tout doute, je défie toute peur, je défie tout ce qui est impie, quitter cet auditoire au nom de Jésus-Christ. Sortez de cet auditoire afin que nous puissions être un avec Dieu et servir Dieu sans maladie ni crainte. Que la puissance qui nous a rendus un avec Dieu, comment ce démon peut-il se mettre à crier autour des oints? Comment ce démon peut-il se tenir là et se vanter comme un Goliath? Quand David est entré dans le camp, il a dit, « Voulez-vous dire que vous laissez ce Philistin incirconcis rester là et défier les armées du Dieu vivant? Oh Dieu! » Fait que les hommes et les femmes se lèvent dans la puissance de l'Esprit. Que ce nom converti, ce démon abattu qui a fait du mal à la race humaine à travers l'âge, se tienne ici et défie l'Église du Dieu vivant. Satan, sors et pars au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous qui avez assez de force pour brandir une épée, maintenant que vous avez assez de compréhension de la parole de Dieu pour la revendiquer comme votre propriété personnelle, qui pouvez prendre la parole de Dieu maintenant dans votre main, la tenir dans la main de foi et dire, « Je prends parti pour le Seigneur. Je vais faire un avec mon Dieu. À partir de maintenant, je vais prendre cette épée de l'Esprit dans cette parole et je vais couper le diable pour chaque promesse que Dieu m'a faite. » Si vous croyez cela de tout votre cœur, je vous demande donc sincèrement, de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ, levez-vous et acceptez-le. Vous le pensez vraiment? Êtes-vous sincère? Est-ce que la parole est dans votre main? Est-ce que votre main est votre foi? Levez votre main physique vers Dieu. Dites Dieu par ceci, par ma main levée. Je donne toute ma vie. Je donne mon âme. Je donne mes pensées. Je donne tout à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne ma foi maintenant et m'accorde la chose. Retranche tout doute de moi. Et par la foi, je reçois la promesse que je demande à cet instant. Si vous le croyez, dites « Amen » maintenant. Dites « Amen » encore une fois. Amen, Amen, Amen. Alors, si vous le croyez de tout votre cœur, au nom de Jésus-Christ, je vous promets ce que vous avez demandé. Amen. Croyez-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse, Frère Neville.